Du coup,
Oula, c'est fort, tu peux mettre moins fort. Est-ce que là, c'est assez fort pour les gens du fond? En fait, on parle dans des micros parce que c'est enregistré, c'est aussi streamé. Et du coup, s'il y a des questions, enfin voilà, faut le savoir, c'est qu'en fait, ça sera diffusé sur mon disjoncté.info et retranscrit d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on parle dans des micros,
Et
mais
que
aussi.
vous poserez vos questions dans des micros.
Voilà, c'est ça. Et c'est aussi par confort sonore. Voilà, c'est un peu stressant. du coup, là, on fait une première discussion. Enfin, il y a eu du coup la présentation sur les ludites hier, et en fait, ça nous semblait important pour commencer le week-end de cadrer un peu le reste du week-end pour apporter les notions de féminisme qui nous tiennent vraiment à cœur et les mélanger à la technocritique. Du coup, on va faire une discussion assez générale. Enfin, on va parler de manière assez générale. Dans le week-end, il y a plein de choses qui vont être développées beaucoup plus précisément. Du coup, là, c'est un peu large et c'est pas un exercice facile parce qu'on s'appuie pas sur un livre parce que il y en a pas qui parlent de ce qu'on avait envie de parler. Du coup, on a dû le faire nous-mêmes et on n'est pas des expertes. On n'est pas des expertes. voilà. Et on a aussi beaucoup été aidés pour faire ça par Mathieu qui est en cuisine, qui nous fait des lasagnes pour midi. Voilà. Du coup, sûrement, on va faire plein de raccourcis, d'approximations. Mais du coup, là, on va vous parler pendant à peu près 1 heure. Et on aimerait bien arriver à dérouler, sauf s'il y a des points très techniques. Et puis après, on fera un moment d'échange. Mais comme c'est stressant, c'est bien si on arrive à aller au bout. Voilà. Voilà.
Oui, donc on vous dit le titre sucré-salé, faire de l'anti-indus avec du féminisme dedans. Donc
Ouais.
une discussion qu'on a, qui veut pas, on ne sait pas trop comment vous allez l'entendre, mais en tout cas voilà, on a des livres et des brochures qui nous ont inspirés et on a beaucoup discuté, débattu pour voir comment dire toutes ces choses. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'à l'accueil du festival, on a fait une sélection de brochures qui nous semblaient chouettes pour défendre une position anti-industrielle et anti-tech. Et ces brochures ne sont ni transphobes, ni anti-féministes, ni validistes. Voilà. C'est une petite sélection. Il y en a sans doute d'autres, puisque, comme on le disait, on n'est pas spécialiste et finalement, il y a plein de choses écrites quand même. Voilà. Là, ce matin, il s'agit de raconter pourquoi les pensées et les luttes anti-industrielles nous portent, nous nourrissent et pourquoi elles sont primordiales pour affûter nos armes contre le technocapitalisme. Et on s'inquiète, nous, de l'amnésie. Je le mets entre guillemets. C'est un terme utilisé par l'autrice américaine Kate Crawford, qui parle d'une amnésie stratégique qui accompagne le récit du progrès technologique. Et donc cette amnésie, elle nous permet individuellement et collectivement d'oublier le coût humain et environnemental du progrès, le prix de la dévastation, pas le prix auquel j'ai payé mon smartphone, mais le prix de tous les minerais qui ont été creux, enfin, qui sont qu'on est allé chercher sous terre. Combien d'usines il a fallu pour assembler tout ça et combien de lacs il a fallu polluer. Et donc c'est l'amnésie qu'on va combattre ici ce matin, permise aussi par toujours plus d'éloignement entre nos vies quotidiennes, nos environnements et les endroits dans lesquels nos objets sont produits, nos énergies nous sont délivrées. Cet éloignement qui permet donc de rester dans l'ignorance, pour reprendre encore une phrase de Kate Crawford. En fait, on flippe de nos propres désertions, de nos propres renoncements. Moi, il y a 3 ans, j'utilisais jamais de GPS. Maintenant, je l'utilise vraiment beaucoup dès que je suis seule en voiture et que j'ai pas le temps. Et donc, ça a des conséquences sur mes compétences cérébrales. Alors, il y a une étude qui est parue pour dire qu'on perdait de la compétence cérébrale autant qu'on utilise, face, enfin, en utilisant de plus en plus le GPS. C'est aussi ce que raconte Damasio en ce moment. Il fait beaucoup comme ça, de pédagogie autour de la critique du technocapitalisme. Il est beaucoup à la radio et à la télé. Et notamment, voilà, il raconte qu'il fait cette différence entre pouvoir et puissance. Et il dit que le GPS nous donne du pouvoir parce que, ben, on peut se diriger beaucoup plus rapidement, facilement. et on voilà, on n'a plus qu'à suivre des instructions, mais par contre, on en perd de la puissance, puisque voilà, nos facultés cognitives sont amoindries et on se perd de plus en plus dès qu'on n'a plus le GPS. Alors, c'est un exemple, mais un exemple de pratique individuelle, mais ici, l'idée, ce n'est pas de parler seulement de nos pratiques individuelles et de nos gestes type colibri pour se désintoxiquer, mais on voudra aussi parler d'action collective, de volonté de résistance. Pourquoi celles qui refusent le smartphone ne sont plus qu'une poignée dans le pays entier? Nous étions des milliers il y a encore assez peu de temps. Qu'avons-nous à dire face à ce rouleau compresseur des technologies? En fait, on se rend compte que c'est presque comme s'il était devenu ridicule d'oser dire qu'on veut toujours combattre Facebook, Instagram, Microsoft, Apple. Amel avait rajouté quelque chose quand on a préparé.
On s'est beaucoup moqué de moi parce que j'avais pas envie qu'on ait une bouilloire électrique, par exemple, et ça semblait vraiment un peu anodin comme ça, mais voilà, c'est vrai.
La bouilloire électrique, voilà, on pourra en
Les gens
parler.
qui se sont moqués sont ici.
Voilà. Le nombre d'appareils électroménagers qu'on a dans notre cuisine. Alors, la question qu'on voulait poser en introduction, c'est le mouvement anti-tech existe-t-il? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'industrie et le numérique sont partout et leur contestation radicale ne fait pas l'objet d'un mouvement sérieux en tant que tel. Et là, la plus grosse manif en mémoire, c'est Minatech en 2006.
Oui, du coup, en 2006, à Grenoble, qui est un peu un endroit où il y a une très forte critique, technocritique, quoi, il y a eu une manifestation qui était vraiment codée, très technocritique. Vous voyez, elle était sur cette problématique, c'était non aux puces, quoi. Et depuis, il n'y a pas eu de manifestation qui soit vraiment codée exactement comme ça. Et 10 ans plus tard, là, il y a eu une manif, il y a une quinzaine de jours à Grenoble. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'était une manif qui a bien marché. C'était contre STMicro, du coup, qui est une usine qui fait des puces électroniques. Mais en fait, pour attirer du monde, pour la composition et le. Vous voyez que ça marche pour attirer des collectifs à Grenoble, ça a été réencodé de manière écolo. Du coup, c'était de l'eau, pas des puces. Et en fait, c'est clairement, en fait, de l'aveu même des certaines personnes qui ont organisé, qui étaient plutôt portées sur la technocritique, c'est vraiment l'écologie qui est porteuse aujourd'hui d'une critique. Mais critiquer la technique en tant que telle n'aurait pas suffi à attirer les 2500 personnes qu'il y a eu aujourd'hui.
Et donc, on a effectivement plutôt un codage politique en ce moment qui est de l'écologie radicale et plutôt d'un que nous aussi on appellerait un mouvement anti-indus qui serait pour le coup plutôt fait d'une ribambelle de différents mouvements et lieux. Donc, les tanneries, les lentillères pour nous sont des lieux anti-indus et ils proposent des structures anti-indus comme la riso, la rebouterie, la risographie. Donc, l'impression ici, la rebouterie, c'est un collectif de soins autonomes. Les soulèvements de la terre sont pour nous un mouvement anti-industriel. L'exemple de la revue Z dont je suis issue. Les bifurqueurs qui sont des ingénieurs qui sortent de l'idée que leur métier va être bénéfique pour l'humanité. Voilà, le mouvement squat, l'écoféminisme sont pour nous constitutifs de ce mouvement. Et donc, ça veut aussi dire que tous ces mouvements et ces personnes ne sont pas d'accord entre elles. Ni sur la critique des technologies, ni sur le féminisme. Mais selon nous, ces mouvements portent en acte, collectivement et avec des failles, une voix féministe intersectionnelle et technocritique. Nous ne pensons pas nos luttes selon une posture déconnectée des contextes sociaux, de nos propres contextes sociaux et de nos vécus. Tu voulais dire un truc là-dessus ou on...
Oui, je pense que c'est un nœud important dans ce qu'on va développer après pour faire ce mélange qu'on a très envie de faire entre féminisme et technocritique. C'est que nous, de la position dont on parle, il y a aussi plein de choses qui, dans nos vies, créent des nœuds pas si simples. On a affaire à des. Enfin, soit nous, soit des gens très proches prennent des hormones, ont des traitements pour des maladies chroniques. Voilà, on est à plein d'endroits où on ne peut pas juste dire on n'a qu'à tout cramer, tout arrêter l'industrie, on s'en fout, quoi. Et qu'on va développer ça longuement, mais en tout cas, c'est pas déconnecté de qui on est.
Et donc, pour continuer, l'idée, c'est d'avoir une posture qui ne soit pas surplombante, jugeante, puriste, simpliste. Voilà, nous aussi, on a un smartphone, on est connecté. Moi, j'ai un ami qui m'a vendu un Mac il y a quelques années que je trouve très ergonomique. Et puis...
Ouais, moi, je dors pas la nuit et je regarde des réels sur Instagram. Ah.
Et puis moi, j'ai mis un implant contraceptif hormonal dans mon bras pendant plusieurs années pour ne pas risquer de tomber enceinte quand j'avais des rapports sexuels avec pénétration avec mon compagnon. Et c'était pas que de la joie de mettre, de prendre, voilà, de prendre des hormones, et je l'ai fait. Voilà, c'était cette petite intro. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord vous dire pourquoi on est du mouvement anti-industriel et pourquoi pour nous c'est important. Ensuite, on vous dira qu'on peut porter une tendance anti-indus qui se débarrasse d'une vision rétrograde de l'idée de nature. On vous racontera un peu c'est quoi, en fait, cette idée de nature qui nous gêne. Et on va donc vous dire qu'on peut tenter, en fait, d'être, enfin, on peut, voilà, être anti-tech et pas transphobe, qu'on peut être contre l'industrie et féministe, et on va même oser dire qu'on peut être critique de la PMA ou de la GPA et ne pas attaquer les personnes qui y ont recours. Ensuite, on vous dira que l'industrie et les technologies tapent d'abord sur les pauvres et les minorités, et on essaiera de finir en développant quelques pistes inspirantes, quelques idées pour renverser l'ordre des choses, bien sûr. Alors, voilà, en fait, qu'est-ce qui est important pour nous dans le mouvement anti-indus, pour commencer, en première partie, c'est que c'est un mouvement qui, ils ont été les premiers à développer des choses dont personne ne parlait, notamment avoir été celles qui ont dévoilé la supercherie du capitalisme vert. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu, voilà, pour tout le monde acquis que le capitalisme ne peut pas être vert, mais c'est vrai qu'il y a 10-15 ans, voire 20 ans, bah, c'était quand même les premiers qui nous disaient, en fait, le concept de développement durable est un concept inventé pour continuer à toujours produire plus et toujours exploiter davantage. Et donc le développement durable, non, ce n'est pas écologique, non, ça ne va pas sauver la planète. C'est important parce qu'il y a eu, moi j'ai été par exemple en cours dans une université où mes amis écolos ont tous choisi, enfin énormément ont choisi le master développement durable en pensant que c'était là qu'on allait réussir à avoir une prise sur ben, le désastre en cours. C'est important parce que maintenant, après le développement durable, on a de nouveaux concepts qui nous sont qui sont produits, comme les mines vertes, les mines durables. Donc, Célia, qui est ici, a beaucoup travaillé sur cette question à travers son livre sur l'extraction minière, là, la ruée minière. Et en fait, ben, notamment, elle raconte le mirage de la transition écologique, qui a aussi ce nouveau mot qu'on entend beaucoup plus désormais et qui nous fait penser que ça va être ça la solution, la transition écologique. Ben, c'est en fait une manière de continuer à vivre avec le capitalisme. Et elle dit même que ben, avant, voilà, on était mu par, enfin, on était guidé par le progrès. Et puis désormais, ça va être la transition qui va être comme ça, cette chose qui va nous guider vers un monde meilleur et protéger la planète. Eh bien, tout cela, effectivement, c'est bien un mirage et même une contradiction insupportable, puisque cette transition, elle nous fait croire qu'on peut continuer à produire toujours plus et alors en réduisant le CO2, mais en continuant à creuser sous terre. On en reparlera, la question de la matérialité de la technologie. Et donc pour nous, ben, la question qui importe, c'est va-t-on continuer de produire plus en prétendant que la technologie nous permettra de maîtriser les dégâts, ou va-t-on procéder à un inventaire collectif de nos besoins et y répondre par des moyens moins destructeurs en laissant s'affirmer d'autres conceptions de la vie? Cette question de l'inventaire collectif de nos besoins, on l'évoquera aussi à la fin. Ensuite, un autre point important pour nous de la pensée anti-tech, anti-indus, c'est de s'opposer à l'idée que l'innovation est la solution. L'idée qu'il faut toujours, il faut laisser les chercheurs, chercheuses, les ingénieurs continuer à innover parce que la technologie va trouver les solutions pour nous. Voilà, l'exemple le plus immédiat, là, c'est Jean Covici qui voilà, avec son Shift Project, voilà, raconte que grâce au nucléaire, grâce à la technologie nucléaire, on va donc produire une énergie propre, une énergie très très peu productrice de CO2, et que donc ça va être utile pour ben, enrayer le désastre écologique en cours. Voilà, nous, on est plutôt contre cette idée-là et on pense qu'il faut arrêter de croire qu'il faut innover pour innover de manière technologique pour s'en sortir. Alors, bien sûr, il y a un premier frottement qu'on voulait aborder ici et qu'on abordera à plusieurs endroits de ce petit exposé, c'est la question du progrès de la médecine. Qu'est-ce qu'on fait avec voilà la question de la médecine? Est-ce qu'il faut se dire oh ben non, on n'a pas envie qu'il y ait des avancées dans la lutte médicale contre le cancer, par exemple, ou on n'a pas envie qu'il y ait des nouveaux objets médicaux pour des personnes handicapées? C'est une question qui montre voilà un premier endroit où c'est pas si simple de répondre à cette question parce que bah oui non on n'a pas envie nous de dire qu'il faut arrêter de améliorer la lutte contre le cancer mais par contre ce qu'on a envie de toujours lier c'est d'où vient le fait qu'on ait des cancers aujourd'hui et en fait essayer de toujours dire la société elle produit en fait massivement de la bouffe ultra transformée, des inventions industrielles polluantes, des nanotechnologies qui amènent qu'il y ait toujours plus de cancers. Et si voilà, on combattait aussi les causes du cancer, ce serait pour nous là quelque chose qui serait conséquent. Et cette question-là, c'est aussi les penseurs et les penseuses des luttes anti-tech qui souvent la dévoilent, la question de, en fait, oui, enfin, il faut d'abord aller chercher la cause. Ce qui ne nous empêche pas de nous vouloir dénoncer la domination, ce que c'est que la médecine en termes de domination de classe, de genre, de race, et d'aller aussi justement tout en se disant bah, peut-être j'ai besoin de cette innovation médicale, et en même temps, est-ce qu'il y a des endroits où je peux résister à une médecine de classe, de race, de genre? On pense aussi que ben il faut toujours continuer à se dire on peut vivre sans l'industrie moderne. En fait, toujours avoir en tête qu'il est possible de vivre sans l'industrie moderne. Se dire que ne pas être dans une résignation qui ferait qu'aujourd'hui, on n'y arriverait plus à se défaire de cet empire. Se rappeler qu'en fait, on peut vivre sans la nourriture transformée, se rappeler qu'on peut vivre sans un smartphone, se rappeler qu'on peut vivre sans plein de médicaments produits par les grands groupes pharmaceutiques que sont Bayer et Monsanto. Se rappeler qu'on peut vivre sans Google parce qu'il existe d'autres navigateurs. Voilà, c'est un peu au sens de ce que la philosophe Isabelle Stengers parle de désenvoûtement. Et voilà, c'est important parce que des fois, on oublie de se rappeler que voilà, la vie est possible et ça peut, on peut en fait trouver des voies de sortie. Ensuite, un autre point important pour nous dans la pensée anti-tech, anti-indus, c'est de reprendre la notion de matérialiser nos vies et donc de se dire mais le numérique n'est pas immatériel, notamment le numérique, puisque effectivement on vit quand même dans un moment où on l'oublie trop souvent. Moi, j'avoue que je mets plein plein. Bien dans le micro. Je mets plein plein de données numériques sur des clouds, là, des nuages, et je ne sais absolument pas où sont stockées ces données. Et pour mon travail, j'ai mis beaucoup de films, d'images, de textes dans ces endroits, et ça me facilite la vie. Et en même temps, je n'ai pas conscience de ça veut dire quoi en termes d'énergie. Ben, en fait, quand on écoute les chercheuses comme Fanny Lopez qui racontent ce que sont les data centers, on se rend compte que c'est une dépense énergétique absolument monstrueuse et qui sont posées dans des endroits dont on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment où ils sont, mais ils prennent de la place sur du foncier. Là, aujourd'hui, ils représentent 8% de l'énergie mondiale, mais les data centers, dans 20 ans, ce sera peut-être, d'après les pronostics, 30% de l'énergie mondiale.
Les data centers, du coup, c'est un tout petit morceau finalement de l'utilisation de nos pratiques numériques, mais il y a un exercice à faire qui est de se demander vraiment c'est quoi le chemin d'un de nos tweets ou n'importe lequel de nos SMS. Et en fait, tout début de l'intervention, on a été parlé d'amnésie. Et en fait, c'est sûr qu'il faut mieux être amnésique parce que si on commence à réfléchir, ça fout vraiment le vertige, quoi. Du coup, c'est basé sur un système d'extraction où il y a vraiment des quasi semi-esclaves en fait qui travaillent dans des mines à l'autre bout du monde pour fabriquer des objets connectés. Ensuite, il y a des gens qui vont à lire tous ces tweets et ramasser toute la haine qu'il y a dedans pour qu'en fait, nous, on n'ait pas affaire à des décapitations en permanence dans nos fils de Twitter ou de je ne sais quoi. Il y a des trous dans la mer, dans la terre pour faire passer des câbles. En fait, c'est juste délirant. Il y a des caoutchoucs qui ont été décimés. Il n'y en a quasiment plus parce qu'en fait, il fallait du caoutchouc pour ces câbles. Il y a des antennes qui déversent leurs ondes sur des gamins à côté d'école. En fait, fait, c'est juste vertigineux, ça, c'est juste des tout petits trucs. Mais en plus de la matérialité, je veux dire, de l'extraction et tout ça, il y a aussi tous les gens. Enfin, il y a des. Je sais plus qui disait que pour subvenir à nos besoins en tant qu'Européens, il nous fallait une vingtaine de. Moi, j'appelle ça esclaves et des ouvriers à l'autre bout du monde où on n'avait aucune conscience, en fait, que tous ces gens travaillaient pour nous de manière quasiment gratuite, quoi. Tout ça, en fait, on ne le dit pas pour. Enfin, vous voyez, on va déployer beaucoup de choses et ce n'est pas pour culpabiliser individuellement, mais c'est vraiment un appel à le penser collectivement. Enfin, ce n'est pas parce qu'on va arrêter de faire ça ou y penser seul que ça marchera, quoi.
Et pour reprendre aussi un exemple de matérialisation, il y a actuellement l'extraction minière, notamment pour aller chercher des nouveaux, enfin ce qu'on appelle les terres rares, qui permettent en fait, de simplifier, de rendre plus joli, plus beau, plus léger nos appareils électroniques, dont nos appareils portables, nos téléphones. Et donc on a par exemple dans les portables 17 éléments différents de terres rares qui sont extrêmement difficiles à aller chercher. Et surtout, il faut creuser énormément pour aller chercher quelques grammes. Il y a 98% que ce qui est extrait pour le lithium part en déchets, il me semble. Et donc, ce qui juste doit permettre que donc nos écrans soient plus colorés, nos téléphones plus légers, qu'on ait voilà, des piles meilleures. Donc, c'est actuellement quelque chose d'assez dramatique, la question de l'extraction minière, pour nous permettre voilà, de continuer à être, avec des, à être dans des. Avoir des produits de plus en plus ergonomiques et surtout qui doivent aussi nourrir cette fameuse voiture électrique dont on n'aura pas le temps de parler, mais il faut savoir que les besoins en métaux rares sont extrêmement colossaux pour voilà, changer l'appareil automobile en un. Enfin, faire qu'on ait tous un jour des voitures électriques. Ensuite, on voulait aussi parler de l'importance de la défiance vis-à-vis de l'expertise. On a parlé d'innovation, mais aussi d'expertise et de science, voilà, de rôle scientifique. Se rappeler que les chercheurs, non, ne travaillent pas dans leur coin et souvent ils ont l'impression que ils vont chercher et puis après, voilà, eux, leur rôle s'arrête là. Et nous, on a envie de reprendre cette idée qui nous est donnée par les penseurs de l'anti-tech et de l'anti-indus, c'est qu'il y a une responsabilité sociale des chercheurs et qu'ils ne peuvent pas juste chercher et qu'il n'y ait pas de conséquences ensuite sur la société. Alors, c'est pour reprendre Einstein, vous voyez, eh bien, ce qu'il a découvert, ça a donné lieu à la bombe atomique et il a écrit une lettre à Roosevelt pour un peu lui dire que lui, il n'avait pas envie que ça devienne la bombe atomique, ce qu'il avait trouvé comme formule mathématique. Et puis finalement, c'était trop tard, vous voyez. Alors Einstein, il était pacifiste. Ensuite, il a essayé de montrer qu'il était contre la guerre. Mais finalement, la science, elle est utilisée pour des intérêts politiques, militaires, industriels. Et voilà, c'est important de l'avoir en tête. Refuser que les scientifiques, ils font. Un peu comme des inventeurs dans leur tour d'ivoire, ils pourraient inventer et ils feraient des robots et puis ils pourraient se rassurer en se disant que les robots ne seront utilisés que pour une utilité sociale, médicale, par exemple, en se disant non, mais ça va être bien pour la médecine, pour améliorer la vie des gens. Mais en vrai, voilà, les robots, ils vont pas servir du tout qu'à de. Enfin, ils vont souvent être très néfastes dans les utilisations là qu'on nous prédit. Le nucléaire est aussi un exemple pour nous d'une expertise scientifique liée à des intérêts politiques et militaires. Et on voulait rappeler là aussi que il faut que on pense que l'expertise scientifique, elle est complètement, elle dépossède les habitants des territoires du pouvoir de décider de quelles technologies ils ont besoin. Le nucléaire est un exemple d'une énergie qui est autoritaire parce qu'elle implique une centralisation du pouvoir. Et donc nous, on voudrait ici développer une pensée pour une société qui soit libre, égalitaire et dont on peut choisir en fait les types de technologies d'énergie dont on a besoin en évaluant ensemble quels sont nos besoins, ce qui n'est pas une mince affaire. Enfin, pour finir sur cette première partie, Voilà, ça continue en fait l'idée que j'ai développée, c'est l'idée que les outils ne sont pas neutres. On pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on a appris en discutant et en lisant. C'est l'idée que en fait il faut accepter nos propres responsabilités quand on utilise les outils. Les outils qui sont fabriqués, ils incarnent une vision du monde. Un marteau incarne une vision du monde, un ordinateur incarne une vision du monde, un Mac ou Facebook. Et donc quand on l'utilise, on ne peut pas juste se dire ah mais je l'utilise. Mais je l'utilise de la bonne manière. En réalité, il faut plutôt se dire que je participe à cette vision du monde quand je l'utilise. Et de voilà.
En fait, c'est un truc qu'on va beaucoup développer après, c'est la non-neutralité du monde numérique et des outils qu'on nous propose aujourd'hui. En fait, il faut quand même admettre que du moment qu'on, enfin, avec toute la numérisation de nos vies subies ou choisies, quoi, en fait, factuellement, on vit complètement dans des imaginaires d'ingénieurs blancs, très éduqués, riches de la Silicon Valley, qui codent les choses avec des zéros et des 1. C'est factuel, c'est comme ça, quoi. Du coup, après, c'est un choix où on le subit, mais on peut pas faire autre chose que ça. C'est là-dedans qu'on navigue, en tout cas.
Et on est la civilisation, ce que disait, de ça y est quoi, des gens qui en permanence caressent une vitre toute la journée. Alors, ce qui est important pour nous aussi, c'est grâce aussi à cette pensée qu'on a pu aussi enfin, se mettre dans une critique radicale d'une certaine gauche ou d'une certaine même enfin, d'une certaine gauche, oui, qui était complètement technophile. Alors, on a gagné des combats depuis, mais il faut rappeler que quand même, pendant tout un moment, on faisait partie d'un mouvement progressiste, donc avec cette idée du progrès au sens littéral, qui serait que, en fait, c'est bien. Enfin, bon, je le disais, mais en fait, la gauche était prise par cette idée qu'on ça allait améliorer nos vies. Et donc pour nous, je pense que ça a été important de pouvoir dire que même dans notre camp, il y a un problème autour de cette question. Et donc de remettre au centre le fait que la numérisation de nos existences est bien un problème politique majeur, que cela creuse les inégalités sociales à l'échelle mondiale et que ça repose sur l'exploitation d'un paquet d'humains et de territoires immenses.
Je veux bien ajouter quelque chose, c'est que là, peut-être pour plein d'entre nous, ça paraît évident de critiquer ces techniques et l'industrie en tant que telle, mais j'ai cherché un peu sur l'ensemble des partis institutionnels représentés aujourd'hui et de ce qu'ils posent comme critique, c'est inexistant. Et il y a beaucoup de blocages, c'est aussi parce que souvent ça remet en question des emplois, de dire l'industrie c'est de la merde, il faut la cramer. Mais en tout cas, c'est vraiment les partis, c'est non seulement ils ne viennent pas critiquer en tant que telle l'utilisation du numérique et des techniques, voire même ils kiffent ça, enfin. Mélenchon, il fait des trucs hologrammes là, et en plus de ça, souvent ils y voient même une solution. Enfin, 100% des partis institutionnels qui se présentent par exemple aux présidentielles ou aux européennes aujourd'hui, ils sont ce qu'on pourrait appeler technophiles actifs, quoi. C'est pas juste, ils disent rien, c'est que en plus ils proposent des solutions technologiques. Voilà.
Et pour répéter ce que j'ai dit, mais pour le redire en conclusion, voilà, nous, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour voilà, repenser des besoins d'outils conviviaux. Alors, conviviaux, c'est un terme qui est repris d'un penseur, Ivan Illich, si je ne me trompe pas, qui pense voilà, des outils qui seraient appropriables et pas des systèmes complexes qu'on ne sait pas réparer ou qui sont loin de nous et donc dont on est dépendant. Eh bien, voilà, en gros, c'est à gros traits quoi ce qui nous porte. Enfin, voilà les quelques points qui étaient importants. Maintenant, on voulait, en deuxième partie, rappeler aussi nos désaccords vis-à-vis de certaines pensées anti-tech et notamment essayer de défricher cette manière. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée de nature? Qu'est-ce qu'on a envie d'en garder? En fait, ce mot nature, il est aussi très polysémique. Alors, c'est pas forcément évident. Il est utilisé de plusieurs manières dans le mouvement anti-tech. Alors, on va essayer d'être un peu clair et ce sera pas évident. Mais en tout cas, il existe dans notre mouvement, au sein de notre mouvement anti-industriel, des tendances et des personnes qui portent une vision de l'ordre naturel qui, en fait, est une manière de. Ben, maintenir un ordre social, c'est une sorte de comme ça de cachette pour défendre un ordre naturel qui en fait est un ordre social que nous voilà on appelle un ordre ben, un ordre cis hétéro normé patriarcal ou valide donc où la femme par exemple c'est quand même un de ses rôles majeurs c'est la production des enfants Donc ça, c'est une part du mouvement, un très réactionnaire situé à l'extrême droite, et ça n'est pas nouveau. Je vais citer le livre des soulèvements, La première secousse, qui dit en intro d'un de ses chapitres: La défense de la Terre est porteuse dès son origine d'une profonde tendance réactionnaire, ancrée dans la biologisation du politique. Frontières nationales ou binarisme de genre, l'éloge des limites naturelles est partagée par de nombreuses figures, du fondateur de l'écologie scientifique au premier groupe d'action directe. Alors, donc cet ordre naturel hétéronormé, ben, il amène par exemple à avoir des positions homophobes. On a un grand penseur de l'écologie politique, Jacques Ellul, je crois que c'est ça son prénom, qui voilà, a par exemple désigné le sida comme une punition divine. Il faut pas, ça ne veut pas dire que Jacques Ellul, par exemple, va pas dire des trucs intéressants à des moments sur notre rapport à la technologie, mais il faut aussi savoir, voilà, que ces positions existent pour pouvoir mieux caractériser voilà, des endroits de ce mouvement. Donc, y a ensuite, avec cette idée de nature, ça nous fait basculer dans l'idée qu'il y aurait des personnes qui seraient aliénées par la technique dès qu'elles ne laissent pas la nature faire son travail. Je mets entre guillemets, mais j'ai l'impression que c'est ça qui pose, enfin, qui est en jeu. C'est l'idée que parfois, il faudrait laisser la nature faire son travail et ne pas intervenir. Et ce qui, effectivement, dans ce cas, attaque et met en danger les femmes, les personnes handicapées, les personnes qui ont le Covid, les personnes trans. Car dans certains textes, il y a une forme de moralisation et une mise en accusation qui touche certaines communautés en particulier. Même, on voit dans certains textes l'idée que ben, les mouvements LGBTQI seraient à l'avant-garde d'une forme de malheur qui serait celui donc de mettre de l'industrie dans la nature, que donc ce seraient des acceptologues. Je cite des propos voilà, enfin, des propos qu'on peut lire.
Là, pour être clair, de qui on parle, c'est des gens qu'on pourrait considérer qui sont dans notre camp politique, qui se revendiquent d'extrême gauche. Nike a commencé sur l'extrême droite et on est en train de parler de propos de gens qui sont d'une large extrême gauche, quoi.
Oui, et donc pour pouvoir citer un groupe que peut-être tout le monde connaît, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas, le groupe PMO, Pièces et Main-d'œuvre, basé à Grenoble, voilà, est un groupe qui se pense à l'extrême gauche et qui a véhiculé ce type de propos ou voilà, de théorie. Alors ouais, c'est à toi justement.
Oui, en fait, du coup,
Ah.
tous ces espèces de pensées réactionnaires autour de l'idée de nature et de gens qui la pervertiraient ou qui seraient un peu les fers de lance du technocapitalisme en utilisant des techniques, par exemple, de transformation des corps comme, je sais pas, prendre des hormones. En fait, pour nous, c'est quand même un des endroits à dépasser, pas à dépasser, à oublier, mais en fait, c'est ce qui crée aussi aujourd'hui une difficulté, en fait, à parler des questions de technocritique, parce qu'en fait, le discours autour de la critique de l'industrie, il a été vraiment accaparé par des personnes réactionnaires. Et en fait, quand même, pour situer à quel point ça a pu être problématique et blessant et grave, et du coup, c'est dur, effectivement, 10 ans après, là, par exemple, on n'est pas complètement à l'aise, vous voyez, de reprononcer les mots de technocritique et de critique de l'industrie. C'est parce que, on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé au moment du mariage pour tous. Du coup, en 2013, il y a des tonnes de. Crétins, on ne dit pas crétins, des tocards, qui défilaient dans la rue comme ça et qui étaient complètement en panique morale parce qu'il y a des personnes qui allaient pouvoir faire ce qu'elles voulaient de leur sexualité, quoi. C'était vraiment très très grave et ça jouait la carte du danger pour les enfants dans les couples homoparentaux. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, qui est assez hallucinant a posteriori, c'est que le mouvement anti-indus d'extrême gauche, même des camarades, des amis à nous, ils n'ont rien trouvé mieux à faire que de se dire super, la problématique de la PMA, de l'artificialisation, de lutte, du recours aux techniques artificielles de reproduction est enfin mise en lumière. Du coup, c'est le moment, les gars, on fonce, quoi. Et là, ils se sont dit super, on a enfin une caisse de résonance et on va pouvoir parler de ces sujets-là. Et du coup, c'était un peu délirant parce qu'à ce moment-là, les personnes homosexuelles, il y avait une explosion des agressions à leur encontre. Et en fait, les gens, notamment de PMO, mais pas que, ont dit que c'était, enfin, que si il y avait le développement de toutes ces techniques de reproduction, la PMA, mais aussi les hormones et tout ça, c'était de la faute, je cite, des tordus queer qui, en fait, étaient vraiment, du coup, les personnes LGBT devenaient les espèces de fer de lance de la complicité avec le technofuturisme. Une forme de, enfin, vous voyez, ils voyaient pas du tout, enfin, ils ont fait un truc qui était complètement confondable avec ce qui se passait à l'extrême droite à ce moment-là, quoi. Genre là, c'est le moment où les extrêmes se sont rejoints pour de vrai. C'était un peu un délire. Et du coup, les gens qui, par exemple, utilisaient des hormones étaient vus, vous voyez, comme des colibris à l'envers. Ils feraient leur petite part pour collaborer à ce système mortifère du technocapitalisme, quoi. Et du coup, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils remettaient plutôt la faute sur les individus à ce moment-là, qui étaient usagers, usagères des techniques, plutôt que critiquer une société où il y avait une norme, une injonction si forte à l'hétéro-couple valide avec enfant, qui bien sûr, en fait, pour plein de raisons, pousse à consommer et à développer des techniques pour se conformer à cette norme. Mais jamais ce truc-là a été mis dans ce qu'ils dénonçaient, quoi. Voilà. Et ce qui était en plus d'autant plus troublant à ce moment-là, c'est que la PMA, le recours aux hormones n'était pas nouveau. En fait, la plupart des femmes cis-hétéros à cette époque-là consommaient des hormones. Je crois que c'était 50% des femmes consommaient des hormones de manière journalière en prenant la pilule. Et la PMA, elle était ouverte depuis quasiment 20 ans aux couples hétéros, quoi. Du coup, c'était assez troublant. Enfin, bien sûr, il pouvait y avoir un intérêt stratégique de se dire c'est super, on va en parler, mais c'est quand même un peu affolant d'avoir fait ça, quoi. Et du coup, là, pour revenir sur l'idée de nature, on peut se demander si à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est exactement ce truc d'attachement à la nature. C'est est-ce que finalement, la technique, on pourrait y avoir recours quand elle reproduirait quelque chose que naturellement les gens peuvent faire? Voilà, les gens étaient, les couples hétéros peuvent faire des enfants naturellement. Du coup, ça serait OK d'avoir recours à la technique à ce moment-là. Mais quand c'est pour les tordus queer qui veulent faire famille, on ne sait comment, là, c'est mort parce qu'en fait, ce n'est pas de la reproduction de la nature. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Du coup, peut-être que les technocritiques auraient quand même un seuil d'utilisation de la technique acceptable quand c'est pour reproduire quelque chose de naturel.
Et donc, il faut préciser que selon nous, enfin, dans ce développement, les mouvements féministes ou encore moins les personnes trans ou féministes n'ont à se justifier de leur travail sur l'autonomie. En fait, justement, on dénonce des attaques transphobes qui sont venues d'Antitech, qui ont mis en avant un usage par des personnes minorisées, qui sont notamment des personnes transgenres, comme si, en fait, c'était les seuls à être dépendants de la méga machine. Et nous, on dit, en fait, la société cis-hétéro est elle-même totalement méga dépendante à la machine, et c'est ça qu'on est en train de dire, et que voilà, il faut enfin, la numérisation est partout, la technologie est partout, et il y a un problème à avoir visé des minorités en particulier, alors qu'on est tous et toutes prises par ça. Voilà, donc c'est seulement faux de construire les transféministes comme le camp avancé de l'acceptation des technologies, mais c'est aussi proprement dégueulasse de cibler les personnes minorisées. Enfin, sur cette partie-là, un autre endroit aussi qui nous paraît un peu douteux, toujours autour de cette question de la nature, c'est, j'arrête pas de tourner ma feuille, ouais, voilà, c'est là, c'est cette question de, ah non, je la retrouve pas, de, c'était quand le moment où c'était mieux? Parce qu'en fait, je ne sais pas si dans la pensée technocritique, ils nous disent à un moment, mais il y a souvent cette idée que bon, bah, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup se défaire de l'industrie. Et moi, je suis d'accord avec ça. Donc, il faudrait, ben, par exemple, valoriser des endroits, des territoires et des communautés où on fait ensemble les choses et on est moins dépendant et donc il y a moins de techniques. Mais parfois, on a l'impression qu'il y a une forme de nature fantasmée, figée, qui serait là et une sorte d'âge d'or. Et à ce moment-là dans la vie, c'était mieux. Et on ne sait pas trop si c'est au Moyen Âge, avant la révolution industrielle, avant l'arrivée d'Internet. Moi, je suis un peu voilà, paumée avec ça. Et surtout, mon problème, c'est que il n'y a pas une pensée des rapports sociaux d'oppression quand on nous dit que c'était mieux avant l'industrie. Et pour nous, l'important, c'est de critiquer l'industrie tout en ben, en fait, continuant à penser les rapports sociaux de race, de genre, de classe, par exemple, dans des villages. Parce que oui, il est des fois dit que c'est mieux, quoi. la communauté, le village, voilà, les rapports étaient plus simples, il y avait de l'artisanat. Mais en fait, voilà, moi, je pense notamment à la lutte pour l'indépendance de l'Inde, qui a été gagnée par un grand indépendantiste qui s'appelle Gandhi, vous voyez, et qui a beaucoup lutté contre les colons britanniques en portant une pensée anti-industrielle très intéressante, où il disait, on n'a pas besoin de vos trains, on n'a pas besoin de votre industrie textile, nous, on peut au rouet, en fait, faire nos propres vêtements. Et donc, il a vraiment réintroduit la question du village indien comme un endroit, en fait, aussi de dignité pour un peuple opprimé par la colonisation. Mais ce qu'il a oublié, et ce que beaucoup de minorités indiennes ensuite ont porté dans leurs textes et dans leur combat, c'est de parler de l'oppression dans les villages. C'est-à-dire que dans les villages en Inde, on a des basses castes qui sont complètement dominées par les hautes castes. Et voilà, Gandhi, ça, il n'en parlait pas. Et je pense que c'est toujours à avoir en tête dans nos critiques, c'est qu'on ne peut pas oublier cette question-là quand on se réfère à un monde qui serait, par exemple, moins industrialisé. Alors, pour terminer, maintenant, il faudrait qu'on se dise, alors, du coup, si on n'aime pas l'état de nature, si on n'a plus trop envie d'utiliser l'idée d'un ordre naturel, qu'est-ce qu'on utilise? Pourquoi on se défend, en fait? Qu'est-ce qu'on défend? Alors là, on ouvre des pistes parce qu'on n'a pas vraiment trouvé de réponse. Moi, j'ai l'impression que depuis un certain temps, dans l'écologie politique, on utilise le terme le vivant. Enfin, c'est pas juste moi, c'est qu'on fait ça. On s'est dit que la nature, c'était plus vraiment le bon terme, donc on défend le vivant. Et puis finalement, c'est pas si évident que c'est la meilleure manière de penser nos luttes, parce que bah, dans le vivant, il n'y a pas forcément le fait qu'on n'a pas envie d'aller laisser Elon Musk privatiser l'espace. Il y a l'idée, c'est ce que disait Nastasia Martin, je ne sais plus comment on dit son prénom, qui elle dit, bah moi je veux défendre la montagne, je veux défendre la roche, le minéral, vous voyez. Donc là, bah ça marche pas si on dit qu'on défend le vivant. Alors bon, alors on s'est dit, ben peut-être que on défend le monde physique. Je sais pas, mais du coup, si on veut se dire que l'espace, pour moi, c'est vraiment important de lutter contre la privatisation de l'espace. Vous voyez, il y a un truc absolument absurde et j'arrive pas à trouver le terme. Bon, je sais pas. Et alors, il y a aussi l'idée peut-être qu'on pourrait aller vers la défense du territoire, mais ça, c'est assez ancien, ce truc des luttes de territoire. Mais que finalement, ce qui est intéressant dans le territoire, c'est qu'on y met. On y met le minéral, on y met le végétal, on y met nous-mêmes dedans, et aussi peut-être des choses déjà construites et des machines déjà existantes avec lesquelles on cohabite. Donc voilà, peut-être que, en tout cas, c'est à continuer à travailler. Ce qui est sûr, c'est que nous, on chérit une nature protéiforme et non binaire. Et là, je cite encore un texte de Première Secousse. Tous les comportements sont dans la nature, de la prédation la plus violente aux plus généreuses des symbioses, en passant par les modes de sexuation les plus inventifs. Les vivants que nous sommes sont protéiformes, ils se reproduisent par mutations aléatoires et croisements imprévus, et construisent leur attachement au fil de leurs histoires. Finalement, par cette citation, on se dit que peut-être le mot nature peut encore exister, mais ça dépend effectivement comment on l'utilise. C'est à toi.
Voilà. Du coup, là, dans cette première partie, Nike a un peu posé d'où vient l'anti-tech, pourquoi on y tient et pourquoi c'est pas si évident d'y tenir. Et en fait, maintenant, on va un peu explorer un des obstacles pour nous à l'abandon des techniques technocapitalistes, et plus particulièrement, on va explorer la question de l'utilisation des GAFAM à travers l'impression qu'on a parfois, en tout cas moi j'ai déjà entendu ça, c'est aussi que ça a une capacité émancipatrice en soi. Du coup, on va un peu parler voilà, de l'utilisation des réseaux sociaux dans des objectifs d'émancipation sociale, race, classe, genre, quoi. Voilà. Et du coup, une des choses qui nous semble importante de faire pour arriver à se désintoxiquer du besoin absolu qu'on a de passer par ça maintenant, c'est de déconstruire le mythe que le numérique maintenant est tout puissant, qu'on ne peut pas faire sans, quoi. Et c'est pas si simple parce que sur le plan des luttes féministes et intersectionnelles, dans les 20 dernières années, le rôle des technologies de communication, du coup, s'appelle les TIC. Vous voyez, TIC, c'est technologie de l'information et de la communication. Je vais utiliser un petit peu ce mot. cet acronyme. Le rôle d'éthique, il est tel qu'on lui attribue une nouvelle vague du mouvement féministe. Les réseaux sociaux, ça a vraiment accompagné l'émergence de nouvelles formes de revendications, l'ouverture de nouveaux sujets de lutte. Le phénomène, il a été inédit par son ampleur, sa résonance internationale. En fait, c'est quand même assez fou ce qui s'est passé. Les thématiques, les problématisations du féminisme, elles se sont déplacées. Le vécu intime, le slogan des années 70, le personnel et politique, il est venu s'incarner réellement dans des millions de postes faits par des millions de gens qui n'avaient absolument pas la parole jusqu'à présent et qui sont venus ajouter leurs paroles, leurs histoires, leurs corps à la grande histoire féministe qui était jusqu'à présent resserrée quand même autour de personnes plutôt blanches, valides, au moins en Occident, quoi. Il y a des putes qui se sont mis à parler, des personnes trans, des meufs qui portent le voile, des gens qui font du porno, des gens qui sont asexuels. Enfin, et le féminisme blanc bourgeois, il a pris un coup de ouf. Et ça, on peut dire que c'est vraiment parce qu'il y a eu un accès très facile à la parole pour plein de gens qui s'est accumulé. Et du coup, ça, c'est quand même assez bénéfique pour le féministe qui a dû se penser moins universel. Et nous, ça, on peut que en être contente avec les formes de féministes que l'on porte, quoi. Il y a aussi, on peut quand même parler de quelque chose qui est très propre au réseau dans le féminisme, c'est la vague MeToo. MeToo, c'est pas MeToo, c'est hashtag MeToo, quoi. Du coup, c'est un hashtag. Voilà. Du coup, on peut pas nier en fait l'impact incroyable qu'ont eu les réseaux sociaux dans le mouvement féministe les dernières années. Ça a aussi créé pour les gens dans leur intimité des trucs de fou. C'est pas juste la parole qui est venue s'ajouter, mais c'est aussi la possibilité, je sais pas, de vivre à la campagne, d'être noire, de vivre à la campagne et de pouvoir converser avec d'autres gens qui étaient dans la même situation très particulière. Ça crée des choses de communauté très soutenantes pour plein de gens. Voilà. Et ça, du coup, on peut pas du tout nier l'existence de ce bénéfice, on va dire, pour le mouvement féministe. Voilà. Mais du coup, en fait, une des choses qu'on veut critiquer, c'est qu'on s'organise tellement avec ça maintenant, on le valorise tellement que parfois il nous semble impossible de faire sans, voire même on a l'impression, vous voyez, c'est la question de la poule et de l'œuf, est-ce que le féminisme viendrait pas des réseaux maintenant, quoi? Nous, on veut vraiment combattre cette idée vu qu'on pense qu'il faut niquer les GAFAM, abolir les GAFAM. Et du coup, quand même, il nous semble important de se rappeler parce que, enfin, c'est des vraies discussions que moi j'ai eues avec des vrais gens, c'est qu'en fait, il y a eu des mouvements émancipateurs pour les droits civiques avant Internet, avant les réseaux sociaux. Internet, ça a 20 piges. Nous, quand on a commencé à militer, il n'y avait pas l'utilisation d'Internet, du tout pas massive, en tout cas comme c'est là. Et pourtant, il y avait des mouvements émancipateurs. Enfin, voilà. Et bien sûr, la communication, ça a toujours été l'arme de la guerre absolue, mais elle est aussi possible avec du papier et du carbone et quasiment rien. Ici, on a un atelier pour produire des tracts par milliers et on veut un peu se rappeler que ça a été possible sans, même si c'est difficile à croire. Voilà. Et aussi, on peut regarder plus attentivement l'utilisation des GAFAM dans les réseaux féministes. En fait, il y a des choses qu'on pourrait penser qui est vraiment très propre. Au réseau, enfin, dont les organisations sont sur les réseaux, je vais dire un exemple, comme ça sera plus concret. Mais il y a quelque temps, il y a un groupe de personnes racisées qui est venu faire une discussion ici, et c'est un groupe qui existait que, on va dire, sur les, enfin, disait qu'elles existaient que sur les réseaux. C'est-à-dire, c'était un groupe, c'était un compte Instagram, en fait. Avant d'être un groupe militant, elles se définissaient comme un compte Instagram qui réunit des personnes juives. Et en fait, elles ont du coup présenté leur collectif. Et là, il y a plein de gens qui ont dit, ah, mais c'est super, moi, je suis toute seule en tant que personne juive dans ma ville. Du coup, j'ai hyper envie de rejoindre votre crew, votre compte Instagram. Et là, aux surprises, on découvre que c'est pas un compte Instagram, c'est des vrais gens qui, en fait, se réunissent deux fois par semaine et bossent ensemble pour produire du contenu Instagram. Mais c'est pas du tout une organisation qui se fait sur les réseaux. Et il y a comme ça un truc qui est, enfin. Si l'organisation et la communauté se fait, c'est bien parce qu'elle se fait dans la vraie vie. Et finalement, il n'y a pas vraiment de changement d'organisation réelle de militance, mais plutôt sur le mode de communication. Peut-être qu'il y aura des contre-exemples et on pourra en parler après, mais on n'en a pas trouvé ou on n'avait pas envie d'en trouver. Voilà. Du coup, pour résumer, on peut dire que plutôt c'est les modes d'action qu'on, les modes de communication qui ont évolué, mais les modes d'action, ils restent les modes d'action historiques avec une diffusion différente. Il y a aussi, en plus de ça, on va pas épiloguer là-dessus, mais il y a une cyber-féministe qui s'appelle Cyber Alex, qui, elle, alerte très fort sur la militance sur les réseaux sociaux, sur les questions de dépendance. Je vais la citer, comme ça sera plus simple. Elle dit: de tels systèmes nous mettent en situation de dépendance. Militer avec les GAFAM, c'est faire une manifestation dans un centre commercial. Ils peuvent te virer du jour au lendemain. En fait, ça, on a pu le voir, par exemple, aussi quand tout est basé sur les réseaux, quand ils ont coupé TikTok au moment des émeutes avec Naël. En fait, je ne sais pas à quel point ça a pu participer. Bon, il y avait aussi une répression de dingue, mais n'empêche qu'il n'y a plus de moyens de communiquer parce que les gens ne savent pas faire autrement, en fait. Du coup, ça crée des situations de dépendance absolument folles. Et du coup, c'est bien de continuer à réfléchir à s'organiser autrement. Voilà. Tu veux ajouter un truc ou...
C'est super.
Voilà, le deuxième truc que je voulais développer, c'est l'impression d'inclusivité qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux et les dangers de cette impression. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, et je vais aussi un peu raconter où pèse la balance, à qui vient le bénéfice des réseaux sociaux. Je ne parle pas du bénéfice de qui a la thune à la fin, mais vraiment sur l'angle de l'émancipation. Du coup, bon, déjà, il y a un truc qui est assez clair, je pense, j'aurais pas besoin de beaucoup dire des choses là-dessus, mais c'est que s'il y a bien des gens à qui bénéficie le mode de communication des réseaux, à quel point c'est possible de faire des raccourcis et de dire n'importe quoi, c'est aux droitards et aux réacs, les mascus, enfin, tous ces mouvements qu'on déteste, enfin, j'espère que tout le monde les déteste, et du coup, c'est clairement à eux que ça profite, il y a plein d'études là-dessus. En plus de ça a ouvert une possibilité géniale pour tous ces gens, c'est de pouvoir harceler, par exemple, des féministes directement là où ils n'étaient pas atteints avant. Ça a créé une nouvelle forme de harcèlement, et youpi quoi. Du coup, ça, c'est un peu le côté évident qui est favorable aux mascus, mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus subtil que moi, j'ai appelé ça la fausse inclusivité des réseaux sociaux. C'est que c'est sûr que quand on va sur Instagram, alors là je suis concernée par les gens qui vont sur Instagram, on m'a rendu accro, il peut y avoir une impression d'inclusivité, c'est assez fou quoi, assez vite en fait, avec ce que tu choisis comme page à suivre et tout ça, assez vite c'est super, d'un coup en fait tu vas avoir des contenus qui vont être proposés, qui sont parfaitement adaptés à toi, t'es même reconnu dans ton identité et c'est assez grisant. Moi, mon exemple, c'est que je suis issue d'une famille juive algérienne et puis d'un coup, on me proposait plein de graphismes auxquels je suis très attachée, des goûts musicaux, des photos de l'Algérie des années 70. C'était super, j'avais accès à ça pour la première fois. Je me sentais hyper genre reconnue dans mon identité, j'étais super contente. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a une forme de satisfaction immédiate là-dedans, mais assez vite, on s'est mis à me proposer des pubs pour des cheveux crépus, noirs et frisés, vous voyez, ou des fonds de teint pour ma peau foncée. Et du coup, ça s'appelle du racisme, en fait. C'est de réassigner les gens dans des identités complètement, comment on dit, je sais pas, vous n'avez qu'à trouver un mot. Ouais. Voilà, figé, des identités figées. Voilà. Et en fait, ce qui est plus flippant au-delà du truc raciste, c'est que si on veut nous proposer ça, c'est bien qu'il y a un système qui a recueilli des données ethniques sur nous. Et franchement, sans vouloir faire un espèce de point Godwin chelou, en fait, c'est pas du tout rassurant que le fait qu'on puisse croiser nos noms, prénoms, nos codes sociaux et en fait venir coder les gens en termes ethniques. Alors même si là, le but pour le moment, c'est pas d'esclavagiser, de déporter ou je ne sais quoi, il y a quand même une alerte, en tout cas moi ça m'a fait une espèce d'alerte majeure de ok, il y a un algorithme, sans jamais que je l'ai dit, qui connaît parfaitement mon identité ethnique mieux que moi-même peut-être des fois, enfin qui a été capable de l'identifier très très vite quoi. Du coup, on assiste vraiment à un phénomène très inquiétant sur les réseaux sociaux où, sous des apparences inclusives et assez gratifiantes, en fait, c'est en fait de la ségrégation et les préjugés qui sont devenus la valeur marchande absolue de ces réseaux. Du coup, il faut vraiment, je sais pas, qu'on accepte comme ça que la réalité d'Instagram, c'est pas de faire le lien entre les communautés entre elles et de leur donner de la puissance, mais bien d'extraire des données, de pratiquer une forme de surveillance, de classer les gens, d'élaborer des prédictions et de pouvoir ensuite influencer des comportements. Ça, je ne vais pas aller loin là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures. Il y a un livre de Shoshana Zuboff qui s'appelle Le capitalisme de surveillance, qui est vraiment un livre majeur sur le sujet de l'extraction des données et de la modification des comportements. Bon, c'est un livre qui fait flipper aussi, mais il est super. Voilà.
D'ailleurs, on avait une question, on s'était posé la question, vous vous étiez posé la question de quel aspect du monde échappe à Instagram? Et ça avait été un moment comme ça de brainstorming intense pour se demander, mais alors, est-ce qu'il y a des espaces? Et alors, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a pratiquement rien qui échappe à Instagram. Vous aviez trouvé quoi comme...
En fait, on a cherché, pas, vous voyez, des choses individuelles, pas par exemple les tanneries sont pas sur Instagram, ça marche pas. Ce qu'on a cherché, c'est vraiment des pans, des
Secteur.
mouvements sociaux de la société qui échapperaient. On a passé une soirée entière, on a trouvé les contrôles techniques. La ré... Non, mais c'est hyper dur, hein. On a trouvé la répression des fraudes, c'est pas sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce truc un peu du contrôle et de la répression, les impôts par exemple, c'est pas sur les réseaux sociaux. On pourrait dire que ça pourrait y être, vous voyez, ils pourraient envoyer des rappels. Ou... Non, en fait, ça y est pas. Et l'autre chose qu'on a trouvé, qui est un pan énorme de la société, c'est l'extrême précarité. En fait, c'est pas représenté. La seule occurrence qu'on a trouvée en cherchant énormément, mais du coup, c'est une exception, c'est une maraude à Toulouse qui est présente sur les réseaux de manière un peu bizarre, mais voilà. Mais vraiment, toute l'extrême précarité, les travailleurs sociaux qu'ils sont avec, on peut dire que c'est un pan de la société qui y échappe. Mais franchement, essayez de chercher, et pas de manière, vous voyez, anecdotique ou exceptionnelle, mais vraiment des mouvements ou des pans de la société, c'est quasi impossible. Tout y est. Voilà. Voilà. Du coup, il y a, pour aller encore plus loin, en fait, sur comment les algorithmes, c'est néfaste avant tout pour les personnes qui sont déjà victimes de ségrégation et de discrimination. Là, on a jusqu'à présent parlé un peu de nos usages personnels et peut-être quasiment choisis du smartphone, mais il y a aussi la question de subir le monde algorithmique. Et en fait, je me suis perdue. Voilà, par exemple, on va prendre l'exemple de la CAF. En fait, du coup, ça, c'est des choses auxquelles plein de gens ont recours absolument pas par choix. Et en fait, dans l'utilisation massive des algorithmes de la CAF, c'est venu renforcer des biais racistes et classistes. Alors on aurait pu se dire, enfin d'ailleurs c'est ce qu'a revendiqué plein de corps d'État au début, c'est que l'utilisation des algorithmes allait permettre que vous voyez, on soit plus sous la coupe du petit fonctionnaire qui serait raciste et qui se dirait tiens, je vais contrôler en priorité cette personne que j'aime pas, mais tout ça serait un peu mathématique et logique grâce aux algorithmes qui en fait seraient à même de détecter les gens à qui qu'il faut aller contrôler. Mais en fait, ces algorithmes, ils sont codés et ils sont codés de manière raciste et classiste. Du coup, là, ici, il y a la Quadrature du Net qui a sorti il n'y a pas longtemps, peut-être elles en parleront tout à l'heure, mais qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Et en fait, dès 2017, la Défenseure des droits, elle nous renseignait sur le profilage qui était complètement assumé par la CAF. C'était transparent. Du coup, le rapport, il pointait l'existence de cercles rétroactifs de discrimination, c'est-à-dire qu'en fait, le codage des algorithmes, il renforce le préjugé. Du coup, on va plus contrôler les gens qui, enfin, si par exemple on leur dit, hey, contrôlez plutôt les femmes seules, ben bien sûr, les femmes seules seront plus contrôlées et du coup, on verra plus de fraude chez les femmes seules et du coup, on dira, ah, ben, faut plus contrôler les femmes seules. Voilà. Et du coup, c'est pas une blague, ils ont décidé de contrôler en priorité les gens qui touchaient le plus d'aide, entre parenthèses, les femmes seules avec enfants, c'est la CAF hein, qui le dit, et les personnes nées hors de l'Union européenne. Il est recommandé de cibler les personnes nées hors de l'Union européenne lors des contrôles. Du coup, l'algorithme, il va contrôler plus ces gens-là, et après, on va pouvoir dire, ah, mais c'est vraiment tous des petits fraudeurs, ces gens nés hors de l'Union européenne. L'autre exemple, c'est que les allocataires du RSA sont 40 fois plus contrôlés que les allocataires de la branche famille. La branche famille, c'est les gens qui touchent des allocations sans condition de ressources juste parce que, ils ont des enfants. Vous voyez, quelqu'un qui va gagner 5 000 balles, s'il a deux enfants, il va toucher, je sais pas, 186 euros. C'est le même truc pour tout le monde. C'est la politique nataliste de la France. Mais en fait, ces gens-là, on ne va pas les contrôler, on va contrôler plutôt les allocataires du RSA et du coup, ça sera de leur faute la fraude à la fin. Et ça se vérifie de manière sensible. Moi, pour plein de raisons dans ma vie, j'obéis à tous les, vous voyez, les, je sais pas, les, l'algorithme de la CAF, il m'adore, quoi. Et moi, j'ai eu 4 contrôles CAF dans la vie, alors que mes potes autour de moi n'en ont jamais vu. Voilà. Du coup, c'est peut-être, on ne sait pas. Hein, je vis en coloc, j'ai eu des enfants sans vivre en couple, j'ai un nom arabe. Enfin, il y a un petit mélange comme ça, très favorable. Du coup, c'est aussi du vécu, quoi. Voilà, du coup, il y a beaucoup de chercheuses américaines en fait qui bossent sur ces biais algorithmiques et il y en a une qui dit que tout ça fait naître en fait des environnements aux droits faibles et que finalement les personnes pauvres, par exemple, dans ces dispositifs, elles échangent leur vie privée contre l'obtention d'aide. Et ça serait insupportable en fait pour des personnes même de la classe moyenne, ils supporteraient pas d'être autant sous la coupe d'algorithmes. Voilà. Du coup, ça va. En fait, ça fait pas longtemps qu'on parle, on n'a pas fini. Mais du coup, tout ça, en fait, une fois qu'on a dit tout ça, sur qui ça tape le plus, en fait, ces technologies, l'autre gros obstacle à surmonter, c'est qu'en fait, il y a un truc en plus, c'est que bon, ça tape le plus sur les gens, je sais pas, noirs, pauvres et femmes, mais en plus de ça, c'est souvent ces mêmes personnes qui sont le plus dépendantes à ces technologies pour plein de raisons. Du coup, là, il faut bien différencier la dépendance du choix, quoi. Avoir un Tesla, c'est clairement un choix. Devoir demander de l'aide sociale, c'en est pas. Ou bien encore, souvent, c'est les classes populaires en fait, qui ont le plus recours à des traitements pour des maladies chroniques qui sont elles-mêmes créées par le travail. Et du coup, c'est dur de dire ben, on n'a qu'à tout cramer, vu qu'en fait, si on crame tout ou si on fait un gros, comment on dit, blackout, vous voyez, on débranche toute l'électricité de la France en même temps, ça ne sera pas, sûrement pas les gens riches, blancs et valides qui crèveront en premier ou qui seront dans la merde en premier, quoi. Ils ont même souvent des groupes électrogènes ou je ne sais quoi. Du coup, nous, vraiment tenir, nous clairement on voudrait tout cramer, mais on veut vraiment tenir ces deux choses en même temps. De comment on arrive à un moment où on peut se permettre de dire ça de manière ouverte sans qu'en fait ça soit les personnes les moins privilégiées
Et donc, on a cet exemple de la cabine de téléconsultation, qui est un bon exemple aussi pour nous de comment on fait travailler ensemble la critique de la numérisation et la critique de l'absence d'alternative, qui en fait est un exemple de l'installation de cabines de téléconsultation médicale dans les déserts médicaux en campagne. Au départ, on devait montrer une photo, puis on ne l'a pas, mais vous irez peut-être la trouver. En tout cas, voilà, on a des cabines qui sont mises en place dans des bureaux de poste, à différents endroits, et qui, en fait, doivent pallier au fait qu'il n'y a plus de médecins dans pas mal d'endroits ruraux en France. Et donc, ben, elles offrent, voilà, elles sont super équipées, il y a un fauteuil sur lequel on s'assoit, et puis tout est connecté, on peut prendre sa tension, il y a un thermomètre, un stéthoscope, une balance, tout ce qu'il faut pour faire une consultation. Et même une imprimante pour sortir l'ordonnance à la fin du rendez-vous. Ben, en fait, ça, c'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant pour nous parce qu'on se demande ben, qu'est-ce qu'on doit faire de ça? Est-ce qu'on doit se dire il faut cramer ces cabines de téléconsultation et voilà avoir une vision radicale autour de ah c'est encore une avancée de la technologie dans nos vies donc on y résiste à tout prix ou est-ce qu'il faut se dire bah oui mais en fait si on fait ça donc les gens qui ont besoin de se soigner ne pourront pas le faire est-ce qu'il faut plus se dire ah bah non l'important c'est donc de se battre pour qu'il y ait des médecins à la campagne mais c'est pas hyper simple de faire que ces combats-là sortent victorieux. En tout cas, nous, on a beaucoup débattu de ça en se disputant un peu comme ça, en se disant, bon, mais si, il faudrait faire de telle ou telle manière. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a, et ce qu'on redira là, parce que c'est la fin et qu'on va vous parler un peu de combat collectif, c'est que pour nous, c'est important de tenir avec des actions radicales anti-tech l'idée aussi de combat populaire et de lutte collective autour des droits sociaux, des droits à être soignés par des humains et des humaines. Et donc, ça veut aussi dire que ça doit aller de pair avec une lutte, par exemple, pour l'installation d'un centre communautaire de santé, comme il en existe dans différents endroits en France, avec aussi une vision justement de la médecine qui est une vision un peu plus inclusive et moins dominante dans ces centres de santé. Donc voilà, ça peut être une sorte de piste face à cette question, en tout cas, de ne pas oublier que, ben, en fait, des fois, on est dépendant à des technologies et on n'a pas le choix. Et il y a l'exemple que je donne ici parce que j'ai l'impression que c'est la prolongation, c'est que en fait de plus en plus, quand on a des enfants, le collège, le lycée nous oblige à regarder les devoirs sur Pronote et qu'il est impossible de faire autrement. Donc comment faire face à Pronote quand on a des enfants qui ont envie de faire leurs devoirs?
En fait, c'est pour dire à quel point ça va loin. C'est que moi, j'ai un enfant qui a ses devoirs sur Pronote. J'ai dit, c'est mort au lycée, je n'installerai pas cette application. J'ai pas de smartphone, j'ai menti. Mais voilà, j'ai dit, j'ai pas de smartphone, de toute façon, je ne peux pas. Et du coup, ils m'ont donné un rendez-vous avec la centre sociale pour me proposer de me payer un smartphone pour installer l'application. Du coup, c'est vraiment que ça ne peut pas être individuel, c'est impossible, quoi. Enfin, voilà. C'est une anecdote, mais je pense que tout le monde en a un peu comme ça, de impossibilité vraiment de se détacher des techniques, même quand on le voudrait, de manière individuelle. Du coup, au vu de tout ce qu'on a dit sur l'impossibilité de l'émancipation individuelle, d'autant plus quand on n'est pas quelqu'un en position de force, vous voyez, par exemple, ne pas avoir de smartphone, quand on est entouré de gens qui n'en ont pas et qui le portent politiquement, c'est beaucoup plus facile que quand on est un peu isolé et qu'on veut faire ça tout seul. En tout cas, on se dit que la critique des technologies, elle doit vraiment être non jugeante individuellement. Elle doit toujours s'accompagner au vu du passif. On a parlé là de l'histoire de la PMA, mariage pour tous. Elle doit vraiment s'accompagner d'une remise en question permanente de ce que vivent les personnes concernées par ces techniques, les personnes usagères de ces techniques. Et parce qu'en fait, c'est clair que dans la plupart des cas, si les gens ils les acceptent, c'est aussi parce que ça, et d'ailleurs ils les acceptent pas facilement, c'est aussi parce que ça améliore effectivement leurs conditions de vie. Du coup, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut tenir ensemble à la fois la critique de la numérisation, par exemple, mais aussi la critique de l'absence d'alternative. Qu'on ne peut pas juste critiquer, enfin voilà, c'est du coup comment on fait si on n'a plus ça, quoi.
Et oui, nourrir cette critique de l'idée que les gens qui vont à un moment utiliser une technique vont avoir un cheminement avec ça. C'est pas que tout d'un coup ils sont super contents d'utiliser cette technique, que ce soit la prise d'hormones ou à un moment l'utilisation d'un service. Parfois c'est un cheminement. En fait, les personnes concernées racontent que parfois c'est douloureux et qu'on va pas facilement y avoir recours. C'est des brochures comme Trans n'est pas transhumanisme ou voilà Ma randonnée sans balise qui racontent notamment de personnes qui vont à un moment décider de prendre des hormones. Que c'est parfois pour correspondre à un monde genré, à une société genrée qu'elles le font et pas parce qu'elles en ont vraiment envie. Et donc je pense que ça c'est très important dans la enfin, de ramener aussi l'expérience autour de nous, à quel moment on va choisir ou non d'utiliser tel ou tel outil. Parfois c'est par survie qu'on va le faire.
Voilà, du coup, un peu pour finir avant de conclure, on disait qu'il y avait un truc important, c'est un peu se calmer avec l'idée de pureté en fait autour de la question de l'utilisation des techniques et vraiment tenir le coup face au tout ou rien, quoi. C'est de tenir la possibilité d'être technocritique tout en continuant d'utiliser des technologies tant que collectivement, on ne s'est pas donné les conditions pour pouvoir s'en libérer tous ensemble. Il faut bien voir aussi que, par exemple, la critique un peu, voyez, fasciste, c'est dire, ah, t'es technocritique. Critique, mets un smartphone. Il y a un journaliste qui disait que c'était aussi débile de dire ça que de dire la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je trouvais que l'analogie était assez bien. Genre, ah, tu vis en France, du coup, tu critiques la France, abusé. Enfin, c'est vraiment un discours de faf. Et en fait, il faut bien voir que dans nos milieux, il y a aussi des gens qui, enfin, créent enfin, disent ce genre de position qui sont exactement la même finalement. Il faut aussi voir que ça, c'est aussi un univers. Enfin, le monde technocapitaliste, c'est un univers sans concession et en fait qui accepte pas la composition. Et du coup, nous, on veut vraiment aller à l'encontre de cette proposition binaire et essayer de trouver un moyen d'évoluer sur cette ligne de crête et de ne pas être décrédibilisé quand on pose de la technocritique alors même qu'on utilise un smartphone. Voilà.
C'est la dernière partie.
Oui, c'est
Alors,
bientôt fini.
c'est bientôt maintenant. On aimerait bien donner quelques propositions d'action ou de réflexion. Bon, bah, pour commencer par quelque chose qu'on a déjà un petit peu développé, mais enfin, si vous avez compris un peu ce qu'on aimerait, c'est que, ben, en fait, on fasse des choix de société qui détruisent moins le vivant, qui reposent moins sur l'exploitation. Et donc, du coup, ça aura quoi comme conséquence? Ben, ça aura forcément comme conséquence que certaines maladies seront sans doute moins soignées dans les pays, moins bien soignées dans les pays actuellement les plus riches, et comme conséquence que les personnes privilégiées perdent du privilège, que ce soit dans une société, dans la société cis-hétéro, ou en étant, comme moi, une personne, voilà, blanche cis-hétéra, si, dans l'idée que le monde féministe gagne, ce sera un endroit où en fait et le monde anti-tech gagne, ce sera un endroit où les personnes les plus privilégiées vont perdre du pouvoir et du confort. Et voilà, il faut voilà le poser comme ça. Et ben, ça veut aussi dire que l'idée, ce serait enfin, cette volonté repose sur l'idée de reconsidérer nos besoins. notamment à plein d'endroits de nos vies. Ça peut être la question du besoin en santé ou en soins. Ça peut être la question du besoin dans les déplacements, nos besoins dans la connexion permanente, comment du coup re-réfléchir à nos habitudes dans l'utilisation de certaines applications, de certains logiciels, voilà, utiliser d'autres logiciels, enfin d'autres moteurs de recherche que Google, utiliser d'autres outils que les outils comme Adobe, et accepter que ces outils ne sont pas aussi performants et voilà, le penser politiquement.
Là, on est toujours en train de parler de réflexion collective. En fait, individuellement, ça ne marche pas. On va un peu le marteler, mais c'est pas individuel ce qu'on
Donc
pense.
ça voudrait dire aussi que pour s'aider, pour le faire, ça voudrait dire voilà, de se faire des formations collectives pour faire avancer cette idée-là. Ensuite, notre autre idée, c'est qu'il faudrait visibiliser les concessions que l'on fait en permanence au monde industriel et au monde technologique. C'est-à-dire que quand j'utilise mon smartphone ou mon ordi, je m'en fais la remarque. Ou ma voiture, au lieu de prendre le vélo, je m'en fais la remarque. Parce qu'en fait, ça me permet quand même de me dire, ah, peut-être, en tout cas, c'est là, et peut-être demain, je ferai du vélo. Enfin, de remettre, en fait, aussi, de remettre, voilà, les concessions en jeu. Et notamment du coup de réintroduire des formes d'organisation où je sais pas, en réunion on arrêterait de tous ouvrir nos ordinateurs. Alors peut-être vous ça vous arrive pas dans vos réunions, mais moi ça m'arrive souvent de remettre des règles qui seraient il n'y a qu'une personne qui a un ordinateur ouvert et comme ça c'est la personne qui prend le compte rendu. C'est du micro je sais pas, c'est comme de la micro-discipline, mais on pense en tout cas que ça peut faire avancer des ou reprendre des fronts qui ont été perdus.
Il y a un des autres enjeux qui nous semblait très important, c'est de faire vivre les imaginaires sans. Tout à l'heure, j'ai parlé de ces histoires de lutte qui ont précédé les technologies de l'information et de la communication, mais vraiment, c'est de se raconter et de se rappeler que ça a été possible. En fait, il y a plein de gens ici qui ont lutté sans des technologies très avancées, avec que des outils qu'on pouvait se fabriquer nous-mêmes, et ça a marché. On a ouvert des squats. Enfin bref, il s'est passé plein de choses. Avec ça, du coup, c'est vraiment se raconter entre nous ces moments où on a passé aussi des semaines entières sans équipement électrique à 60 et que ça s'est bien passé en fait. Voilà. C'est aussi, en fait, il y a quand même un enjeu important, c'est de s'outiller, de valoriser les techniques auxquelles qu'on peut avoir accès nous-mêmes, quoi. Du coup, c'est vraiment de faire vivre l'idée, je sais pas, des ateliers de sérigraphie qui rendent possible d'imprimer pour nous, la brasserie artisanale qui est ici, qui rend possible de brasser. Pour nous pas au sens individuel, mais vraiment dans le sens où en fait c'est des outils qu'on peut acquérir, fabriquer sans un truc délirant quoi. Voilà.
Wow.
Du coup c'est vraiment repolitiser l'idée aussi du do it yourself, du fais-le toi-même, qui est vraiment devenu là depuis 15 ans, qui a été récupéré en fait par l'industrie capitaliste. Et du coup on sait pas trop si c'est un truc de hipster ou de babos, en fait c'est un peu à mi-chemin. Mais nous on pense que c'est quelque chose de très politique. Enfin ça vient du mouvement punk qui pensait ça aussi comme faire quelque chose contre la marche de la société. Et du coup, des fois, on est un peu, vous voyez, moqué. Genre, on a, je sais pas, des chaussures qu'un pote nous a fait. Et ouais, ça a une tête de chaussure de babos. Mais en fait, nous, ça nous semble important de dire que c'est pas un truc de babos. C'est un truc, en fait, qui est possible de faire sans plastique et sans 10 esclaves à l'autre bout du monde. C'est pas rien, quoi.
Cette question de la réappropriation des outils, on en parlera demain à 16h. Je fais une petite pub pour le débat de demain. Oui, en fait, manger bio, c'est pas parce qu'on. Enfin, en tout cas, nous, on ne pense pas le manger bio pour se faire du bien au corps. Enfin, le manger bio, c'est parce qu'on déteste l'industrie. C'est parce qu'en fait, on veut se battre contre l'agro-industrie qui, en fait, donne cette. Enfin, dévaste les champs, le territoire, mais aussi surtout donne la place, voilà, à l'Imagrain, par exemple, pour citer un énorme céréalier français. Donc, on le fait pas en se disant on fait un truc de classe moyenne et c'est cool, mais c'est parce qu'en fait c'est important dans la lutte contre l'industrie.
Oui, il y a aussi une autre possible, enfin une autre voie qui est une voie qui est proposée. Là, je vais citer Donna Haraway, du coup, qui est une penseuse américaine féministe et qui n'est pas forcément adorée par les milieux anti-tech, mais je suis prête à tenir, à tenir bon face à ça, qui propose, pour, en tout cas de moi, ce que j'en comprends, un changement de point de vue radical sur la manière de s'engager et de faire avec le vivant et aussi nos artefacts, du coup tous les produits issus de la société industrielle. Et en fait, elle, ce qu'elle propose, ou du moins ce que j'en comprends, c'est vraiment de venir sentir en fait les choses, de vivre vraiment avec les choses de manière engagée et responsable. Ça veut dire que par exemple, je ne sais pas, plutôt que de prendre une tasse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, on va vraiment prendre une tasse et boire son café dedans en ayant la conscience d'où vient cette tasse, d'où vient cette terre, par qui elle a été fabriquée, c'est quoi les mains qui ont été posées avant les miennes sur cette tasse, et par là même, en fait, un espèce de changement de point de vue radical qui amènerait de fait à abandonner plein de choses, parce qu'une fois qu'on sait d'où viennent les choses et qu'on en prend conscience collectivement, on n'a peut-être plus envie de se dire bah oui, c'est hyper ok d'aller acheter des barquettes en plastique pour mettre nos frites ou je ne sais quoi. En tout cas, ça nous conduirait un peu mécaniquement à l'abandon de tout un tas de choses qui ne seraient pas en accord avec ce qui nous entoure, quoi. Un peu comme prendre au sérieux nos objets, les prendre très au sérieux. Et ensuite, du coup, ça, c'est beaucoup la partie qu'on a développée, qui est se battre sur le terrain de l'émancipation sociale, de la solidarité. En fait, les techniques, la plupart du temps, elles remplacent quand même beaucoup l'absence de communauté. Je sais pas, on peut prendre un exemple, c'est que les boutons rouges, vous voyez qu'ils ont les personnes âgées souvent, c'est quand ça, ils sont seuls. Et en fait, du coup, on peut pas leur en vouloir d'utiliser une technique un peu délirante avec des haut-parleurs dans leur maison et des boutons. Du coup, les prothèses high-tech, elles remplacent aussi beaucoup le fait que d'être dans cette société quand on est non valide, alors qu'il faut produire les mêmes performances tout le monde partout, c'est, on peut pas dire aux gens, ben non, tu vas pas te mettre ce bras de synthèse, en fait, si par ailleurs on leur donne pas la possibilité d'exister dans cette société. En fait, pareil, on aurait sûrement moins recours à la médication massive, je sais pas, de antidépresseurs si on était dans une société moins déprimante. Mais là, on n'a pas beaucoup de perspectives, pas trop dégueulasses, quoi. C'était drôle. Je parle de dépression et vous rigolez en fait.
Mais elle n'a pas fini sa phrase, il y avait marqué où il n'y aurait pas un enfant sur 10 victime de violences sexuelles.
Ouais, pardon.
Voilà.
Voilà. Et ou alors, pour revenir sur les techniques de procréation, en fait, s'il y avait moins injonction à avoir des enfants, ou alors même juste la possibilité de faire famille autrement, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui, en fait, il y aurait peut-être moins l'envie comme ça d'avoir recours à des techniques, bien que, en fait, quand bien même, pourquoi pas, en fait. Voilà. En tout cas, tout ça montre que ça ne peut pas être du tout des choix individuels, et c'est vraiment sur la question de l'émancipation sociale, des imaginaires, de l'abandon qu'il faut se battre. En général, exiger un truc de l'industrie.
Ah oui, et enfin, quand même, aussi dans l'idée d'un combat commun, on pense, et c'est ce que développe aussi Célia à la fin de son livre sur les mines, qu'il faut exiger des comptes à l'industrie, qu'il faut mener des combats collectifs pour les faire reculer. Notamment, par exemple, c'est une proposition parmi d'autres, il y a cette idée qu'ils doivent maintenant, les industriels, dire combien d'émissions carbone ils produisent. Bah, il pourrait y avoir l'autre pendant, ce serait combien d'extractions minières ils ont besoin pour faire leurs objets. Et en fait, de demander ce type de choses permettrait aussi de visibiliser des aberrations écologiques et environnementales et de faire front à cet endroit-là. Ce qui veut pour nous pas du tout dire que ce serait le seul endroit, parce que je pense que ça nous correspondrait pas vraiment, mais d'avoir aussi en ligne, enfin en tête, l'idée qu'on peut aussi, voilà, leur demander de rendre compte, de faire des campagnes massives pour. Ben, pour qu'ils révèlent en fait les dégâts que l'industrie cause. Et donc, ben, en conclusion, on voulait dire que c'est important pour nous d'appliquer un peu la phrase vivre et lutter dans nos usages de la technologie, que voilà, d'imbriquer en fait nos vies et la lutte dans ces usages qu'on fait de nos technologies au quotidien, de nos usages de technologie et de nos objets industriels. Comme vous l'avez vu, et je l'avais mis en intro, puis là je le redis, nous on ne pense pas que c'est parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord ou parce qu'elles portent des propos insupportables qu'il faut déserter le mouvement. On pense qu'il faut prendre la place et enlever la notoriété. Enfin, je ne sais pas, comme il y a des gens comme PMO qui ont pris trop de notoriété et qui ne sont vraiment pas beaucoup et qu'il faut du coup affirmer un mouvement anti-tech qui soit un mouvement anti-tech féministe et qu'il est là et qu'il est large et qu'il faut continuer à l'habiter. Parce que finalement, bah, dans le mouvement féministe aussi, il y a eu un mouvement pendant longtemps qui a été habité par des féministes blanches, libérales, qui n'étaient pas révolutionnaires. Et là, on est quand même en train de vivre une révolution qui change énormément les choses. On a aujourd'hui, voilà, quand même des hommes blancs qui reconnaissent qu'ils ont des privilèges à la radio publique. C'est quand même incroyable. Il y a des choses qui ont énormément bougé. On a voilà, un féminisme intersectionnel en ce moment. Et donc pour nous, ben, il faut faire ce travail-là d'être le mouvement et de ne pas, en tout cas, déserter la critique de la technologie ou de la technique parce qu'il y aurait quelques groupes qui disent des trucs réac. Enfin, ben, on n'a pas toutes les réponses. Vous avez vu, il y a plein de questions en suspens qu'il faut qu'on continue à travailler. Voilà, on pourrait parler pendant des heures de si on est pour ou contre cramer des cabines de téléconsultation. On pense que lutter sur tous les fronts que l'on vient dénoncer, celui des imaginaires, de l'émancipation sociale, de la transmission de savoir-faire, de la construction de communs et de communautés, permettront à un moment de n'avoir plus aucun doute sur le fait qu'il faut cramer les antennes, les cabines de téléconsultation et les data centers, et que cela peut être plus clair si on se tient plus ensemble, et s'il y a la promesse d'une société moins dégueulasse. Voilà, on propose donc de porter ensemble une technocritique intersectionnelle non jugeante qui vise avant tout à réarmer les communautés pour leur autonomie plutôt qu'à critiquer l'usage des gens qui y sont piégés. J'ai pas fini. Ouais. Ça va? On n'est pas en train d'oublier une phrase vraiment très importante.
Je sais pas. En fait,
Ouais, je crois qu'on peut
on
s'arrêter
voulait
là.
finir par un exemple très très concret d'un geste anti-tech qui nous semble un peu marrant et qui alliait plusieurs choses qui étaient du coup de faire sans, de faire autrement, de pouvoir réarmer les gens aussi, pas juste dire faut faire sans et voilà. Il y a ce petit brochure qui s'appelle Manifeste pour la réinstallation des cabines téléphoniques. Alors peut-être ça va vous paraître anecdotique, mais moi je trouve cet exemple très bien. Du coup, c'est des gens qui sont très anti-tech et qui disent les smartphones c'est de la merde, il faut vivre sans, ça va pas quoi. Sauf que bon, dire ça, ça pourrait s'arrêter à être une position jugeante. Mais le truc un peu marrant qu'ils font, c'est qu'en fait ils ont réinstallé à Grenoble des cabines téléphoniques public. Du coup, en fait, pour 70 € par an, tu peux réinstaller une cabine. Du coup, il faut trouver des gens qui habitent au rez-de-chaussée, faire un petit trou de perfo, puis tu vas te brancher sur leur box et là, tu as un téléphone en accès libre. Enfin, ils ont vraiment trouvé une manière que ça marche. Et du coup, ça, pour nous, c'est un exemple un peu marrant que là, ça pouvait marcher. Vous voyez le truc de faire sans. Du coup, faire sans le smartphone, faire autrement, faire avec la cabine téléphonique et lutter contre. Du coup, ben, s'il y a des cabines téléphoniques partout, c'est bon, on peut aller cramer une antenne, vous voyez, enfin, il y a plus, enfin, faut pas le faire. Mais vous voyez, en tout cas, ça ouvre la possibilité. Il y a une proposition collective de prise en charge commune, quoi. Et du coup, la possibilité de faire sens, ça nous semblait un peu allier ces trois choses auxquelles on appelle. Voilà, on a fini.
On peut
Je sais
discuter
pas si vous
encore.
voulez réagir, discuter, rajouter des choses, voilà. Attends, Odile, il faut parler dans le micro pour des raisons.
Je vous ai entendu dire plusieurs fois que c'était un combat qui était collectif, qui n'était pas individuel, mais moi je pense que c'est collectif et individuel. Parce que bon, c'est un combat que je mène aussi toute seule, souvent, et j'estime qu'il est valable. Et le côté collectif, c'est le partager avec les autres, mais on ne peut pas faire ce combat de façon collective et puis rien faire soi-même. Hein. Ce n'est pas possible. Ça nous change aussi. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a cette différence-là.
Oui, je pense que peut-être c'est assez maladroit comme on l'a dit. C'est qu'on a eu un moment dans le mouvement écologique où une très grande place prise par le petit geste colibri par Pierre Rabhi qui disait donc qu'on allait sauver la planète en ne faisant que des petits gestes tous ensemble, enfin chacun de notre côté dans nos maisons. Et donc voilà, il y avait tout. Et le gouvernement fait aussi souvent ça, de dire ah, voilà, consommer l'eau de telle manière, nous donner un peu des petites règles de comportement. Et donc moi, je pense qu'en effet, qu'il faut ces gestes-là, mais qui ne peuvent pas être sans, absolument pas, sans attaquer l'industrie. Mener des mouvements populaires, voilà, rejoindre des résistances, mais je suis d'accord que et on l'a quand même un peu dit, que ça passe quand même par des manières, nous, de repenser aussi dans nos quotidiens, nos rapports, à cette dépendance. Et pour prolonger, en tout cas, peut-être vous le savez, mais à 14h dimanche, il y aura donc une discussion sur les écologies queer qui permettront aussi peut-être d'avancer sur la question de la nature, de nos dépendances. Voilà, je le rappelle, parce qu'il y aura sans doute des personnes aussi qui sont plus, qui ont beaucoup plus de choses à dire que nous là-dessus.
Bon, allez, j'ose. Il y a plusieurs choses. Bon, je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses. C'est super, voilà. Et moi, je me disais un truc qui est important, que j'ai un peu vu récemment. C'est ce truc de, en fait, on a l'impression que la technologie, elle nous donne des possibilités et nous libère, alors qu'en fait, on est contraint de l'utiliser. Et je pense que simplement rappeler qu'il ne faut pas confondre être libre et être aliéné, c'est quelque chose qui est assez important et qui peut être amené, enfin, simplement. De se rappeler quand on utilise quelque chose que parfois on est obligé de le faire et qu'on ne le fait pas parce que ça nous apporte la liberté. Enfin, c'est un peu ce qu'il y a aussi autour du mythe de l'automobile, de ah on peut aller partout et tout ça, mais en fait on est obligé de l'avoir et voilà, il y a plein de choses comme ça. Et on avait eu un débat notamment sur la santé où, comme d'habitude, ces questions-là, on était avec des pincettes en disant il ne faut pas que les gens se privent de médicaments, on a besoin de l'industrie, enfin, tout ce dont vous avez parlé. Et il y a quand même. Dans ce débat, une personne qui a dit, bah moi je prends un traitement pour une maladie chronique et en fait je veux pouvoir porter ce débat. Et donc effectivement, bah, c'est ce que vous aviez dit, mais c'est ancrer la parole dans les personnes qui sont concernées. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose en poussant un peu la chose, même si là on est plus vraiment sur le cadre de l'oppression, c'est qu'en fait, pour toutes les raisons que vous avez rappelées au début, le mouvement technocritique, il est très critiqué, il est invisibilisé et même il est très mal considéré aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se réapproprier, c'est ce qu'on fait là, mais la critique depuis un point de vue technocritique du mouvement technocritique. Et non seulement on est parce qu'en fait, sinon on va continuer à l'invisibiliser, on va dire oui, nous on veut continuer à être technocritique. Et même en fait, c'est aussi au-delà de nous émanciper, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il faut qu'on prenne position publiquement et qu'on fasse un peu le ménage et qu'on. Voilà, je pense qu'il y a des. Et c'est très bien que cet atelier-là, c'est très difficile, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer. Et aussi, ne jamais oublier que, enfin moi, c'est en tout cas dans ma construction politique, c'est là on a un peu l'impression de dire ah oui, la technocritique, ça peut apporter ça comme éclairage sur les gens qui ont des luttes, je sais pas, sur Instagram pour les minorités. Mais en fait, c'est aussi qu'est-ce que les luttes des minorités, et notamment en premier lieu pour moi, en tout cas le féminisme, a apporté. C'est-à-dire qu'en fait, la critique de la toute-puissance qui est portée par les anti-tech, elle est nourri du féminisme, des figures centrales et de la verticalité. En fait, on ne fait pas que donner des leçons. On n'a pas, parce qu'on s'est vu un peu comme une lutte de petits blancs bourgeois qui ont que ça à penser, la technocritique. Voilà, je me considère un peu là-dedans, parce que c'est par là que je suis arrivé au militantisme. Mais en fait, on se nourrit du reste et il faut savoir dire merci et il faut que les discussions elles continuent en fait, entre les milieux, et notamment dans des cadres de lutte où certains mouvements sont complètement invisibilisés. Voilà.
En fait, je veux bien reprendre un truc sur la question du frottement autour des questions de santé. En fait, c'est sûr que c'est quand même un gros truc. C'est que quand on dit on veut abattre l'industrie, moi-même, la première, ça me tombe sur les questions dépendance à des médicaments, quoi. Et du coup, il y a quand même aussi, c'est qu'en fait, du coup, les gens ont l'impression qu'on veut leur prendre leurs médicaments. Et en fait, c'est aussi parce qu'on fait très peu vivre des possibles alternatives. Enfin, c'est toujours cette fameuse question des seuils. C'est que là, on parle quand même de techno-industrie, mais capitaliste, quoi. Mais en fait, il y a aussi d'autres choses qui existent. Et par exemple, il y a des exemples concret autour de la prise en charge du diabète chronique. Il y a des gens qui bossent, ça s'appelle Insuline Open Source. C'est un nom, quoi. C'est un projet de gens, de personnes du coup concernées par le traitement, de gens qui ont les compétences en fait pour développer des médicaments et qui en fait sont en train de finir de mettre au point de l'insuline de qualité médicale qui peut être fabriquée à n'importe quel endroit du monde avec les ruines du capitalisme. Vous voyez toutes ces machines en fait qui sont cassées et du coup dont on peut récupérer un peu la ferraille et le plastique afin de pouvoir je sais pas, j'ai pas les termes médicaux, mais en tout cas fabriquer cette insuline. Il y a aussi des gens qui luttent sur la question du brevet, parce qu'en fait l'industrie c'est aussi la question de l'accaparation des brevets pour des industriels avant que ce soit pour les personnes concernées. Et du coup, enfin c'est ça aussi, c'est le mouvement technocritique qui permet ça, il permet de venir enfin si on est un peu fin, de pas juste dire c'est la fin de l'industrie, mais aussi qu'est-ce que cette industrie comme système, elle produit comme accaparement de nos possibilités de nous soigner, quoi. En tout cas, il y a des gens qui bossent activement là-dessus. Il y a aussi le collectif Ginépunk, qui est un collectif basé à Calafou en Catalogne. J'espère que je dis pas n'importe quoi, qui ont développé en fait des choses qu'on peut faire nous-mêmes ici, en fait, pour faire tous les tests MST et compagnie qui étaient au début. Enfin, en fait, vous pourrez changer, faire des photocopies de leur manifeste et même des photos de l'outillage. On devait le projeter, je sais pas pourquoi on l'a pas fait, on a oublié. Mais en tout cas, c'est des outils qui sont vraiment très conséquents et qui donnent des vraies possibilités d'autonomie médicale à des gens. Ils ont été au début très calibrés pour correspondre aux besoins des personnes prostituées ou bien migrantes en fait et les maladies qu'elles pouvaient avoir besoin de tester. Mais en tout cas, il est possible avec des moyens autonomes et accessibles aux communautés ou à nous-mêmes de quand même faire des choses, quoi. C'est pas juste on détruit l'industrie et du coup on n'a plus rien, on peut même plus, par exemple, je sais pas, faire un test de grossesse. En fait, par exemple, ces outils développés par ce collectif, il permet de faire ça de manière apparemment facile. On n'a pas essayé parce qu'en fait on a accès au reste. Voilà. C'est juste pour dire qu'en fait, nous, c'est là où la question des imaginaires et de faire vivre l'idée qu'on peut faire sans, c'est vraiment ça, c'est aussi de faire vivre toutes ces possibilités qu'on connaît peu, quoi.
Ouais, ben, du coup, j'ai pas eu le temps d'organiser trop dans ma tête, donc on va voir, mais il y a un truc qui n'existe pas dans les possibilités qu'on pourrait faire vivre et que j'entends jamais autour de moi et que là, il n'y a pas longtemps du tout. Enfin, du coup, moi, sur les questions d'autonomie et de santé, j'ai quand même une maladie qui est chiante. Et pour le moment, il faut comme faire des tests. En tout cas, quand j'en parle à des généralistes ou quoi, ils sont en mode, c'est pas encore prouvé scientifiquement, là, là, là. Et du coup, bon, bah, il y a plein d'autres façons de se soigner pour faire que ça soit supportable. Mais des fois, ça dépasse des seuils de supportable, quoi. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une personne non blanche de ma famille qui m'a comme. Enfin, je sais pas, elle était comme super choquée que j'ai jamais pensé à aller voir une radiesthésiste ou quelque chose comme ça. Mais parce que moi, je ne connais pas en fait cet univers-là. Et je pense que je ne le connais pas aussi parce que dans le monde militant, ben, pour éviter les questions de naturalisation ou quoi, ben, tout ce qui est en rapport avec la magie ou des choses comme ça n'existe plus ou ça n'existe aussi pas. Et du coup, je me demandais si vous aviez lu ou pensé des trucs là-dessus parce que je me dis, bon, ben, je ne sais pas, j'ai l'impression que enfin, ça m'a aussi fait des liens avec. Du coup, une copine italienne que j'ai vue il y a vraiment pas longtemps qui m'a aussi dit ça, et je me suis dit, waouh, ouais, c'est vrai qu'en Italie, là, l'euphémisme, il est ce qu'il est. Et, enfin bon, je sais pas, en gros, juste là, je me pose des questions là-dessus, en imaginaire, pourquoi ça n'existe pas dans nos milieux? Peut-être il y a des bonnes raisons que j'ai juste pas vues. Voilà.
Je sais, c'est une question ouais, qui demanderait beaucoup, je pense, de temps. Juste, je pense que ça renvoie quand même à des traditions écoféministes. Pour moi, ça renvoie quand même à l'écoféminisme et à des endroits aussi où on peut piocher énormément de manières de penser aussi le monde différent justement de peut-être une pensée anti-industrielle qui a été forgée par des hommes blancs cisgenres et en fait il y a beaucoup de textes qui existent dans le corpus écoféministe qui proposent justement un rapport plus enfin avec un rapport à la au monde je sais pas, comme plus proche de certaines, oui, de comme tu disais, de magie. Mais on en a, en tout cas, pour faire cette présentation-là, on n'est pas allé puiser dans ce corpus-là.
En fait, il y a quand même un truc que j'ai abordé tout à l'heure, c'est la question de quand on veut faire sans l'industrie, ça nous amène souvent à être traité de babos. Et en fait, moi, je suis méga pas d'accord. Enfin, moi, j'ai des pratiques qui sont jugées comme telles, mais qui pour moi sont des pratiques politiques de désertion de l'industrie technocapitaliste. Mais en fait, elles sont, je sais pas, dans le milieu militant, mais même tout court. Pour moi, c'est un truc aussi qui est décrédibilisé. Et je pense pas que c'est nous qui l'ayons produit. C'est aussi le capitalisme qui produit de la pensée critique sur tous les gens qui voudraient le déserter et qu'on décrédibilise, et du coup c'est plus une pensée politique, c'est juste un espèce de truc de chez père quoi. Enfin, je sais pas si ça répond à ta question, mais moi c'est sûr que les pratiques qu'on nomme magiques, elles ont des effets réels, c'est même prouvé scientifiquement, enfin, que ça a de l'effet, si c'est ça absolument qu'il faut dire quoi. Mais c'est une vraie question de comment on repolitise aussi la manière de, enfin, là où on veut s'échapper de cette manière de faire qui est toujours très scientiste quoi, sans être vu comme des gens chez pair ou essentialisants ou sans prendre au sérieux la question des maladies, c'est un vrai truc. J'ai l'impression que toutes les discussions autour de la technocritique, ça vient frotter très très fort toujours autour de ces histoires de santé en tout cas.
Oui voilà, je me dis juste si jamais vous connaissez des gens ou des ressources quoi qui parlent, enfin, mais qui soient anti-tech, mais qui soient aussi, enfin, je sais pas moi, genre les personnes les plus anti-tech autour de moi, c'est les personnes les plus rationnelles, et il y a toujours un truc où ça m'étonne, et je me dis bon ben si jamais vous voulez m'en parler, ça me fera plaisir.
On n'a pas de truc à te dire tout de suite, Mona.
Mais qu'il y a eu quand même des soucis aussi dans le monde anti-tech, justement, pour moi. Au contraire, cette critique forte de la science et de la science a fait que certaines personnes, pendant la crise du Covid, certains penseurs anti-tech ont donné des cautions à des chercheurs qui étaient des charlatans, enfin à des médecins qui n'étaient pas des médecins. Ils ont parlé d'eux dans des textes. Et pour nous, ça a été aussi des limites. Enfin, pour moi, par exemple, ça a mis plein de défiance. Face à des gens qui pourtant m'ont beaucoup apporté à d'autres moments, à d'autres endroits sur la critique anti-tech, mais de donner la parole à des médecins qui ont aucun, enfin, qui disent n'importe quoi, bah ouais, ça n'allait pas. Donc je pense que c'est vraiment, enfin, tu mets le doigt sur un rapport à la science qui est parfois, oui, compliqué quoi, aux limites de à qui on fait, enfin, ouais, on fait confiance à qui quoi.
Ouais, enfin moi je voulais rajouter un truc, enfin ça va dans votre sens et tout, et enfin c'est un truc que par exemple moi qui m'a fait un peu, enfin qui m'a fait beaucoup de peine en genre en découvrant la culture anti-tech et tout ça, et enfin ce truc de défiance qu'il y a eu beaucoup par rapport à la culture queer, à la transition, aux hormones et tout ça machin, parce que enfin c'est juste que j'ai l'impression que en fait ce serait un truc à visibiliser encore plus, que en fait moi j'ai l'impression qu'il y a un front à ouvrir, enfin qui est déjà ouvert en fait à cet endroit-là, de en fait que j'ai l'impression que les parcours de transition, les parcours enfin les parcours queer en général et tout ça, en fait ils se font dans un rapport super douloureux et critique aux institutions et au capitalisme, enfin en fait de plein de façons qui sont un peu évidentes et tout. Mais genre que même dans les pratiques et dans les moyens, dans les façons de s'organiser, en fait, il y a des trucs super forts à ces endroits-là, même, et en fait, même aux endroits par rapport aux soins, aux hormones, où en fait, il y a des gens qui s'organisent pour faire du partage d'hormones, il y a des gens qui veulent fabriquer des hormones, enfin, je sais pas, il y a des trucs, en fait, qui sont... Et du coup, le fait que ce soit réduit, genre, à je sais pas, un truc de collaboration ou de compromission et tout... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un truc super douloureux et je trouve, enfin, juste c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de puissance à cet endroit-là, et je peux pas parler de ça, mais j'ai l'impression, mais vous l'avez dit et tout, mais comme à d'autres endroits de rapports coloniaux au monde et tout, où, en fait, j'ai l'impression que c'est justement dans ces endroits-là que, en fait, ben on a besoin de se saisir de techniques. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais voilà, genre j'ai l'impression que ça existe déjà et que du coup il y a une espèce de non-communication entre genre deux cultures politiques, alors qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a vraiment des bases communes, quoi. Et donc c'était trop bien de voilà. Enfin, bref, merci.
En fait, sur la question des hormones, il y a aussi des gens. Enfin, en fait, c'est que c'est très délicat. Il y a aussi des gens, en fait, qui fabriquent des hormones destinées aux personnes transféministes, par exemple, qui ont comme presque mis quelque chose au point. Mais c'est vraiment très délicat parce qu'en fait, quand on intervient dans le domaine de la santé, vous voyez, ces gens, ils risquent la prison, en fait. Du coup, il y a aussi un problème de diffusion, c'est qu'en fait, il y a des pratiques autonomes hors industrie de fabrication d'hormones, mais en fait, il est quasiment impossible de les diffuser. Enfin, c'est aussi ça le problème, c'est aussi ça qui fait que c'est pas juste la question des imaginaires, mais c'est que pratiquement, à des endroits, exactement les endroits de gros frottement sur les capacités d'autonomie, en fait, il y a aussi derrière un système de répression et de normes et d'États qui empêchent de toute façon d'utiliser ces techniques ou du moins de les diffuser ouvertement, quoi. En fait, diffuser le dosage d'hormones sur Internet, ça ferait risquer des trucs de fou aux gens qui les ont mis au point. Du coup, il faut que ça arrive à se faire autrement, mais ouais, c'est vraiment très compliqué. Mais c'est ça, c'est que dès qu'on creuse, en fait, il y a plein de possibilités, même pour les trucs les plus hard, en fait.
Oui, juste, bon, il y a vraiment cette brochure de Alex B. Qu'on a mis là à l'accueil, vraiment approfondi ce que tu dis, Tom. Voilà, je sais pas, je peux peut-être vous lire trois lignes, mais c'est vraiment important, quoi, de se rappeler que... le parcours de transidentité, il amène à une véritable hostilité envers le système médical, et que oui, il y aurait peut-être des alliances à faire, quoi, parce que ça a été considéré pendant très longtemps et encore jusqu'à présent considéré comme une pathologie psychiatrique par la science, une considération dans laquelle la plupart des personnes trans ne se reflètent pas, et c'est une autre raison d'hostilité envers le système médical. Et juste, il y avait un endroit qui était important pour moi à dire aussi, le passage obligatoire dans des foules de cabinets médicaux et de spécialistes n'est pas vécu avec plaisir par les personnes trans, mais c'est un compromis qu'elles sont prêtes à accepter dans les cas où la dysphorie avec leur propre corps est une source de grande gêne et de grande souffrance. Cependant, ce n'est pas un choix pris à la légère, mais considéré depuis longtemps. La plupart des gens réfléchissent pendant des années avant de prendre la décision d'entreprendre un parcours médical qui passe par l'hormonothérapie et ou la chirurgie. Et elles ont conscience qu'il s'agit d'opérations invasives et de choix irréversibles, qui, dans le cas des hormones, rendent la personne dépendante d'un médicament à vie. Des fois, c'est peut-être, c'est une personne située qui le raconte d'ailleurs très bien. C'est sa manière de raconter les choses, mais on sent que c'est comme cette personne est obligée de le raconter de manière hyper pédagogique pour répondre aux attaques aussi du milieu dont on a un peu parlé. Et du coup, je trouve ça assez précieux quand même d'avoir ce témoignage-là. Voilà, pour rappeler effectivement qu'il faut continuer à ouvrir des alliances.
Ouais, juste un truc pour être clair là sur ces questions, c'est que souvent, vous voyez, les gens qui ont recours à des techniques, notamment dans des trucs, il faut qu'ils mettent en scène aussi beaucoup de choses de l'ordre de la souffrance et de la difficulté pour justifier le fait qu'ils prennent à un moment des choses pour, changer quelque chose chez elles et eux, mais en fait, c'est aussi des gens qui sont ciblés, parce qu'en fait, si on réfléchit, nous tous, nous toutes, on y a eu affaire. Moi, j'ai eu affaire par mal à la stérilisation et en fait, je me suis pas fait défoncer, je me suis fait défoncer par les médecins, mais en tout cas, pas par toute la société entière, quoi. Il y a un espèce de truc où c'est aussi des personnes ciblées, et du coup, il faut absolument... Quand on veut changer quelque chose, justifier d'une... moi j'ai l'impression que c'est aussi ce qui fait et qui est un peu gênant quelque part. Et quand bien même des gens, ils auraient l'idée de prendre des hormones un jour en se disant que s'ils en prennent demain, ils ont l'impression que ça ira mieux dans leur vie. Franchement, pourquoi pas? En tout cas, nous, c'est pas ça du tout qu'on pense être le problème de cette société actuellement, quoi. Voilà.
Ouais, le problème de cette société, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est une société qui n'accepte, qui est binaire en fait, et que nous, on est, notre entité qui est aussi là à cet endroit-là, c'est de lutter contre une société binaire qui nous empêche de penser, la critique du genre binaire. C'est important de recadrer ça aussi parce que, comme on le disait, on est comme ça, nous en tout cas dans ce milieu féministe et anti-tech, qui est pris dans l'idée qu'on ne pourra jamais faire l'un sans l'autre,